Et oui, ce soir, pour cette dernière émission de Connaître la suite pour l'année 2011, on vous fait une revue politique de l'année. Et aussi, notre ami Danny va nous faire une révélation, c'est-à-dire le spin de l'année. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette dernière émission, comme j'ai dit à l'introduction, la dernière émission de Connaître la suite pour cette année 2011, une année assez mouvementée sur la scène politique, sociopolitique en fait. Ça a été toute qu'une année, donc on vous réserve toute qu'une émission parce que pour nous en plus aussi c'est un jalon important pour nous, c'est la première année d'existence de l'émission Connaître la suite, donc pour nous, ben c'est ça. Ça veut donc dire qu'on a lancé ce projet-là début février, puis en décembre 2011, c'est toujours d'actualité. Donc on est là à vous livrer sur une base mensuelle. Par contre, au départ, c'était sur une base hebdomadaire. Maintenant, on le fait chaque mois, mais on est toujours là, fidèle au poste, fidèle au rendez-vous. Hey, salut à toi, Danny.
Salut, Mister.
Mon partenaire dans cette aventure. Ouais. Qui c'est ça nous mène à tort et à travers peut-être à faire des choses impossibles. Non, je dis ça parce que tu viens tout juste de mettre les pieds ici. Yes. Au studio. Donc bienvenue à toi j'espère que ça va être une émission à l'image un peu de ce qu'on a voulu livrer cette année. Mm-hmm. Parce que on a essayé je dirais de toucher un peu à tout en gardant toujours notre ligne directrice, bien sûr, hein, la liberté, la responsabilité, l'entrepreneuriat, si on peut dire, hein, oui. C'était un peu notre troisième volet. On aime ça, les trilogies, ou les, tu sais, je sais pas pourquoi, c'est comme en déco, ma blonde m'expliquait ça, tu sais, un ou deux coussins, là, sur un lit, là, c'est pas, non, ça en prend un ça troisième, tu sais, je sais pas, on dirait qu'il y a toujours un équilibre. Ah. C'est sûr que, puis on parle beaucoup de gauche, de droite et de centre, hein, fait que je sais pas si ça a un lien, je sais pas si on essaie toujours d'avoir trois alternatives ou trois aspects à tout, là, mais on pensera à ça. On va méditer là-dessus durant le temps.
Ouais, c'est ça. En
des
vacances,
fêtes, en vacances. Ouais. Non, mais c'est ça, ce soir, on va... c'est le temps de faire aussi, à chaque fin d'année, de faire un... Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est sûr, une revue là de l'année sur ce qui s'est passé, mais je dirais un arrêt. Donc, on regarde ce qui s'est passé dans la dernière année avant de poursuivre. Puis là, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont se superposer, qui vont s'enchaîner, qui sont des choses qui datent de 2011 puis qui vont se poursuivre en 2012. Et à l'inverse aussi, il y a des choses que en 2011 ont disparu ou des choses qui reviendront plus. Donc, on va en parler ce soir. Puis, on va avoir une émission assez intéressante. Mm-hmm. D'ailleurs, moi, c'est ça, j'ai envie de sauter dans le vif du sujet, justement sur la revue de l'année. années politiques. Puis je sais que toi, tu t'es amusé à faire une revue aussi.
Ah oui, vendredi.
Vendredi dernier.
Mm-hmm. En direct de nulle part.
En direct de nulle part, en quatre quarts, hein, ce que j'ai compris. Donc c'était une revue assez intense, assez complète.
Il n'est pas disponible encore. J'ai regardé l'après-midi. On a fait quatre trimestres, dans le fond, comme un bilan de l'année, mais un bilan comme en comptabilité,
c'est ça.
En fiscalité.
Mais c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses cette année. Puis il y a des choses qui se sont passées en début d'année, en milieu, un peu là. Des fois, il y a des périodes un peu plus mortes, mais cette année, je sais pas, on dirait que ça a été quand même occupé tout le long de l'année. Puis chaque fois que j'ai à faire l'exercice, moi, c'est bien parce que des fois, je trouve que on redécouvre peut-être l'actualité. Des fois, on pense que c'est des choses qui sont très lointaines, mais on se rend compte que ça a eu lieu au début de l'année.
Ouais.
Puis même des fois, on se dit, c'est-tu l'année passée ou cette année? Parce que des fois, je cherchais dans l'actualité des choses. Je me disais, ah non, c'est vrai, ça remonte à novembre ou décembre 2010. Je pensais que ça avait été, ça avait eu lieu en début d'année. Donc, c'est ça. Moi, ce soir, puis pour certaines choses, j'ai voulu aller chercher des extraits parce qu'il y a des choses qui ont été marquantes. Hein? Puis, j'ai pas nécessairement mis ça dans l'ordre. Tu sais, je peux pas dire que c'est la plus importante des choses. On fait une revue de l'année, donc c'est surtout de se rappeler puis d'en discuter. En long et en large, parce qu'il y a des choses qui ont eu lieu qui étaient quand même assez intéressantes. C'est sûr qu'on peut pas passer à côté des élections fédérales, qui sont quand même, pour moi, quand même assez importante par rapport au paysage politique canadien. Puis je vais y aller tout de suite avec l'extrait. Je pense que ça va mettre un peu le contexte. Donc je vous fais jouer ça.
Mesdames et messieurs, à 22h51, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que le prochain gouvernement conservateur sera majoritaire. Je répète, Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement conservateur sera majoritaire.
Donc, en 2011, des fédérales qui nous sont données pour la première fois dans on va dire, depuis les dernières décennies, parce qu'il y a déjà eu des gouvernements majoritaires conservateurs. Et tout ça s'est fait, évidemment, le 2 mai 2011, hein, suite à une campagne quand même qui a connu des hauts et des bas. Parce que on sait que les médias l'ont pris à la dure par rapport à
ils l'ont pas pris pendant tout,
à l'approche d'Harper par rapport à justement cette directive là que certains diront, parce que là on a tenté de l'expliquer par la suite, est-ce que c'était vraiment Harper ou c'était vraiment des contraintes un peu puis on en a parlé, c'est pas plus tard que le mois passé, hein, quand t'as fait ta revue concernant ton rapport sur les journalistes là.
Mm-hmm.
on a démontré qu'en fait c'est pas nécessairement Harper qui désirait profondément d'aller vers ça.
Mm-hmm.
Mais ce qui est le plus important, et je vous dirais, c'est l'autre extrait que je veux vous passer, parce que tant qu'à moi, cette élection-là, oui, c'est sûr que l'élection majoritaire des conservateurs a permis enfin à Harper d'aller dans sa splendeur en termes de sa ligne directrice, qu'on va dire, de la... Bon, on peut-tu dire droite ou centre-droite, là, mais cette droite-là qui fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec un Canada qui est différent. Tu sais, d'après moi, là, on parle aujourd'hui de que la souveraineté est moins d'actualité. Ben, je pense que le fait qu'on ait un gouvernement majoritaire conservateur, je sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis, Danny, mais tant qu'à moi, je pense que ça a enlevé un peu justement cette pression-là, là, supplémentaire qu'on pouvait avoir des fois par rapport aux partis politiques. Et surtout le fait que les conservateurs passent de minoritaire à majoritaire, ben leur permettait en fin de compte vraiment de ne plus avoir ce baillon-là qu'ils avaient par rapport à l'opposition et aux difficultés qu'il y a de gestion. Certains vont décrier, évidemment, les conservateurs qui actuellement mettent de l'avant certains projets de loi. On le sait, au registre des armes à feu, il y en a pour les jeunes criminels. Bon, les gens vont soulever rapidement la droite religieuse, cette droite-là conformiste qui veut absolument que tout le monde s'enligne sur des modèles basés sur certains diront les valeurs chrétiennes ou protestantes plutôt. Mais il faut faire attention, parce que je pense que Harper est justement en train d'exécuter son premier mandat majoritaire. Il faut le laisser aller un peu là-dedans, puis moi je me dis, tant qu'à avoir justement les clés de la voiture là, puis pouvoir la conduire en fin de compte, parce que je pense que tous ses autres mandats, il a jamais pu vraiment conduire à son aise. Il a toujours deux, trois passagers avec lui. Puis il faut se rappeler que il a été quand même assez stratégique. Les gens nécessairement ne prédisaient pas cette victoire aussi éloquente des conservateurs.
C'est ça. Puis ce qui est pas pire aussi, c'est que écoute, à date, là, ce qu'ils font, ils l'avaient dit. Tu sais, l'autre fois, on disait que Jean Charest, il avait le mandat de faire la réingénierie parce que les gens avaient voté. Il l'avait présenté dans sa campagne, puis les gens l'ont pas fait. Ben lui, ce qu'il a dit, il le fait. Il a vraiment, lui, il comprend qu'il a eu le mandat de le faire parce que c'est ça qu'il a présenté en campagne électorale et les gens ont voté pour lui majoritaire.
Oui, puis on sent pas.
Je trouve ça intelligent. Là. On peut pas lui reprocher de faire ce qu'il avait dit. Là.
On sent pas d'agenda caché.
Ben, pas moi, en tout cas.
En fin de compte, on sent vraiment une, comme tu dis, là, une liberté d'agir par rapport à un programme qu'on a défendu. Mm-hmm. Et puis il y en a qui vont dire que la répartition, la carte là électorale favorisait parce que bon, quand on regarde le pourcentage là, c'est sûr que bon, ils sont au pouvoir, ils ont obtenu moins de 50%. Oui, je suis d'accord, mais ça, c'est des règles du jeu qui sont là pour tout le monde. Là. Fait qu'on s'entend là, c'est comme le mauvais temps là, quand on joue au football sur un terrain, il est là pour les deux équipes. Donc c'est sûr que je pense qu'il faut laisser, en tout cas moi j'y vais de mon commentaire personnel, je pense qu'il faut laisser la chance au coureur. Pour moi, c'est sûr que c'est révélateur enfin d'un gouvernement qui va assumer aussi son programme, un programme qui est peut-être pas justement qui correspond pas peut-être au désir d'une partie de la population. Puis tant qu'à moi, ça pourrait mener à autre chose. Puis tantôt quand je t'ai dit où j'ai fait ma bourde, en fin de compte, c'est pas la question des conservateurs majoritaires. C'était la première fois, en fait, avec cette élection-là, qu'on retrouvait pas cette dualité-là, là. Libéraux-conservateurs. Donc, les NPD, puis c'est un peu aussi une révélation, c'est les NPD là, qui est devenu l'opposition officielle. Donc, on a vu une disparition complète des libéraux. Ben, complète. Assez complète. Donc, ils ont encore quelques députés, mais je veux dire, c'est tout à fait minime par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Donc, changement aussi en termes d'axe politique. Par contre, à travers cette élection-là, donc, premièrement, l'élection majoritaire des conservateurs, le NPD, bon, qui devient l'opposition officielle, et...
Mes amis, la démocratie a parlé. Je respecte ce choix. J'en assume. Et j'en assume la responsabilité au nom du Bloc québécois. En conséquence, j'annonce que je quitte mes fonctions. Dans les prochains jours, la direction du parti se réunira pour assurer la suite des choses.
Donc, tant qu'à moi, c'est encore plus important que les conservateurs majoritaires. C'est vraiment le départ complet. Donc, on a vraiment le 2 mai, là, je pense, chassé même pour de bon les bloquistes. Parce que c'était une honte pour moi. C'est une honte là, que je portais là depuis la formation, justement, de ce parti-là. En tant que Québécois, j'étais outré. Puis le 2 mai, pour moi, là, je veux dire, j'ai crié victoire. J'ai crié victoire.
Ah ouais, moi aussi.
Puis j'ai pas de honte à le dire parce que c'est un non-sens pour moi. Puis ça démontrait justement notre faiblesse qu'on a en tant que Québécois, justement, à ne pas trouver d'axe ou de d'argumentation, tu sais, fondée sur des choses qui sont, pour moi, plus rationnelles.
Ouais. Cartésien.
Ouais, c'est ça. C'est peut-être mon côté à moi, mais je trouve que ça a rejoint beaucoup de gens qui se sont dit, puis ceux qui ont justement pas voté contre le Bloc, c'est qu'ils ont dit c'est terminé, on n'en parle plus de la question constitutionnelle. Puis une fois pour toutes, le Bloc a disparu d'une dualité qui nous a coûté cher. Hein? En tant que Québécois, je sais pas là si les gens, ben j'imagine là, ceux qui nous écoutent, ils le savent là, combien ça a coûté cher au Québec en termes premièrement de disputes, hein, de discours vides, parce qu'en fait, à chaque fois que le Bloc parlait en chambre, là, il parlait de protéger les acquis, mais ils ont de la difficulté à les protéger, puis ils sont allés chercher aucun acquis, au contraire, ils ont...
Non,
Puis les gens se sont plaints des orientations de certains gouvernements par rapport à l'Ouest canadien, puis au fait qu'on aurait favorisé même, on parle de Toronto par rapport à Montréal. Mais écoutez, on l'a cherché un peu.
Bien sûr, en votant. C'est sûr qu'ils disent qu'il faudrait pas que ce soit de même, mais c'est comme ça.
Ben.
Tu sais, les réunions qui se font quotidiennes, là, les gens du Bloc n'étaient pas là, là. Les gouvernements, les réunions des conservateurs... qui, juste avant d'aller en chambre, les discussions qui se font, c'est bon, OK, sur quel projet on travaille, là. Et je m'excuse, mais il n'y avait pas de blocistes autour de la table.
Non, tout à fait. Puis, c'est une grande victoire. Moi, sérieusement, là, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire de la démocratie. Quand tu te présentes aux élections fédérales, je m'excuse, mais tu dois présenter un gouvernement, pas un gouvernement, un parti qui est canadien, là, tu sais, qui couvre l'ensemble des Canadiens, tu sais. Tu peux pas aller t'immiscer dans une, dans une sphère politique qui n'est pas la tienne, donc tu ne veux pas, tu sais, je veux dire, c'était à peine perdu. Puis à chaque fois qu'un Québécois votait pour le Bloc, en fait, c'était comme annuler un... Ben, c'était pire qu'annuler un vote, tant qu'à moi, c'était vraiment de donner la voix ou la parole à quelqu'un qui avait ultimement des visées, bon, qui était un peu utopique dans le modèle politique, comme je le dis, à l'échelle canadienne. Donc, trois choses importantes, victoire majoritaire des conservateurs, le NPD dans l'opposition, donc et la démission du CEP. Ça, pour moi, ça c'est un événement, c'est sûr, c'est lié au 2 mai, aux élections du 2 mai. C'est sûr qu'on pourrait parler longuement du NPD, bon, le fait qu'au Québec, ça a été encore là, tout qu'un revirement. D'un côté, oui, la disparition du Bloc, mais de l'autre côté, le NPD qui fait son apparition, puis qui est, grâce au Québec, propulsé à titre d'opposition officielle. Mm-hmm. Bon, si le Québec aurait été... Bon, est-ce que je peux dire plus sensé dans son vote, mais aurait voté avec les axes traditionnels, aurait-il mis dans l'opposition les libéraux? On le sait pas, on le saura jamais. Mm-hmm. Mais c'est sûr que le Québec, encore là, n'a pas voté majoritairement pour les conservateurs. Ça l'a coûté, hein, ça l'a coûté des postes de ministre, surtout ici dans la région de Québec, hein, Madame Werner. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est de bon augure pour 2012? Je le sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, bon, Danny. Je sais pas si le Québec, malgré qu'on a chassé le Bloc, on s'est vraiment mieux positionné. On laissera peut-être voir les gens du NPD, voir comment est-ce qu'ils pourront... c'est sûr qu'au moins, ils vont le faire dans une optique pan-canadienne. Et là, à ce moment-là, on pourra aller chercher des appuis ailleurs dans le Canada. Mmh. Chose qui était difficilement possible et impossible avec le Bloc. Puis, ça sera pas nécessairement des débats constitutionnels. Mais c'est sûr qu'on s'est, donné les chances. On a diminué nos chances. On a encore quelques personnes. On a le Monsieur Blané ici dans la région de Québec. Maxime Bernier qui est aussi assez présent donc dans la Beauce. Mais c'est sûr qu'il y a des têtes fortes là qui ont quitté le parti là et ça va coûter cher peut-être là justement à des investissements futurs. D'ailleurs, nous on est de Québec. C'est sûr que moi j'ai aimé l'approche des conservateurs dans le dossier du Colisée. En tant que personne qui veut justement favoriser les libertés individuelles.
Je suis content de leur choix, mais leur méthode...
Dans la façon que ça a été fait, c'est très ordinaire.
Ils ont tellement tergiversé à dire la vérité. S'ils l'avaient dit tout de suite, là, c'est non, ça titre. C'était du niaisage. Il y avait un gars qui pouvait dire peut-être, là, ou non. Puis là, José Werner, elle avait peur pour pour ses votes dans la région. Donc là, elle disait non, c'est pas fermé encore. Regarde, il aurait dû fermer le dossier immédiatement. Là, dire... mettre ça clair.
Ben,
c'est très clair. Tout ce qui est professionnel, on n'investit pas là-dedans. Si j'avais dit ça dès le départ, là, ben il n'y aurait pas eu. Tu sais, tout de suite, la bombe, il n'y aurait pas pu faire du chemin là-dessus. Il aurait immédiatement vu que ça donnait rien d'attendre quelque chose du fédéral.
Mais
ça.
C'est pas le drame de la droite, un peu. Je vais dire la droite, mais au sens large, là, de ceux qui sont de centre-droit et de la droite, justement, de mal gérer un peu ces communications-là. J'ai l'impression qu'on s'aide. L'impression qu'on s'aide pas là-dedans, tu sais. Puis quand je dis « on », c'est pas que je suis pro-conservateur, puis à la vie et à la mort, mais c'est que moi, je trouvais que c'était une position qui rejoignait un peu justement ce que une bonne partie de la population a décrié. Mais ça a été mal vendu, comme tu dis. Il y a beaucoup de, on a tourné en rond avant de le dire. Mmh. Puis là, il y a eu toutes sortes d'échanges. On n'a pas le dossier. Puis là, le dossier est envoyé. Puis là, tu sais, c'était un peu de l'enfantillage. Non,
moi, je me dis, assumez-vous.
Ben, c'est ça.
On vous reprochera pas de vous assumer. On peut vous reprocher d'avoir niaisé.
L'avantage, c'est au moins, c'est qu'on n'aura pas d'élection. Fait que les conservateurs pourront, je pense, démontrer peut-être une meilleure disposition de leur part par rapport à mieux communiquer et puis mieux adresser ces dossiers-là. Ouais. Dans ma revue de l'année, je passe en fait à mon deuxième bloc, tout ce qui est, bon, ce que j'ai appelé corruption dans la construction et le projet de loi 33. Et en parenthèse, j'ai mis le nom de Madame Lise Thériault, qui tant qu'à moi est une ministre là qui s'est révélée. Bon, c'est-tu la ministre de l'année? Bon.
Il y en a qui ont été jusque-là.
Oui.
Il y a des journaux qui ont carrément...
Tu sais, je trouve que c'est... bon, pour une femme, puis on nous vante souvent les femmes ministres étant comme des gens qui sont assez, orientés vers les résultats, puis que c'est des gens qui veulent se démarquer. Mais dans son cas, elle, je pense, avec la façon qu'elle a surtout géré la représentation de sa loi, en commission, c'était quand même bien. Là. On a senti vraiment quelqu'un qui était en contrôle, qui connaissait bien sa loi, qui connaissait bien le milieu de la construction aussi. C'est sûr qu'elle avait de bons informateurs, mais direz-vous. Mais on sentait vraiment qu'il y avait là une volonté. Et tant qu'à moi, oui, c'est révélateur. Je sais qu'il y en a qui vont même aller jusqu'à dire, écoute, que ça pourrait être la future remplaçante de Jean Charest. Il y en a qui sont allés jusque-là, mais je dirais qu'il faut quand même regarder ça dans une perspective où on est quand même là dans un vase clos, là où on parle de quelque chose de bien précis. Là, on parle pas quand même de gouverner une orientation là par rapport au programme de la santé, à l'éducation. Donc
Le peuple serait peut-être d'accord avec ça, parce que je pense que ça a été bien apprécié ce qu'elle a fait, c'est les membres du parti qui vont élire le prochain chef.
C'est ça.
Puis, donc, elle avait arrêté un système qui est très bon pour le Parti libéral. Là.
Ouais.
C'est ça le problème. Là.
OK, toi, tu penses à l'intérieur de son parti,
ça va brasser.
Le niveau de satisfaction peut-être pas aussi
élevé. D'après moi, elle s'est dit... victime de menaces, là. Ouais. C'est peut-être the enemy within.
Mais c'est sûr. Puis ça, c'est quelque chose que... puis on le disait tout à l'heure, là, pour le Parti conservateur, le fait qu'au Québec, au Québec, on n'est pas nécessairement placé de députés pour représenter les régions du Québec. On le sait que ça marche comme ça, les amis du parti. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un système qui s'est constitué. On parle plus que du scandale des commandites. Là, on parle pas d'enveloppe brune puis de pot de vin uniquement dans le but d'aller chercher des contrats. On parle d'un système, de mécanismes de protection avec une affiliation syndicale, avec toutes sortes de choses qui font en sorte que là, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Mais on voit que le secret est bien gardé. Hein? On parle de plusieurs individus, là, mais... c'est important de je pense faire le travail. Donc ça, c'est sûr que c'est pas fini, hein, c'est quelque chose qui est là dans l'actualité, qui va le demeurer pour je pense encore au moins un an, c'est sûr, avec la commission d'enquête qui a été mise sur pied, le projet de loi 33 qui va évidemment faire couler beaucoup d'encre encore là, parce que on le sait que les syndicats, ça fait vraiment pas leur bonheur. On sait qu'ils s'apprêtent aussi à, bon, sans dire contrecarrer ce projet-là, mais on n'a pas fini des grèves au Québec, ça je vous le dis tout de suite, là, parce qu'on le sait, il y a des gros projets d'investissement pour la construction des routes, pour des gros chantiers. Fait que tout à l'heure, là, le plan Nord, ça se pourrait qu'il y en a qui, malgré que là, il y a beaucoup d'entreprises privées dans le plan Nord, là, donc c'est pas, ils n'ont pas nécessairement un intérêt à ce que ça soit... que ça n'avance pas bien, mais les syndicats sont quand même assez forts au Québec. Donc, d'après moi, là, ça parle fort dans les locaux syndicaux. Puis, d'après moi, on va voir des gros moyens de pression. Moi, je m'attends pour 2012, là, je sais pas toi, mais d'après moi, c'est pas fini. Là. T'sais, ils n'ont pas dit leur dernier mot, c'est pas vrai. Là,
non, c'est sûr.
Par contre, la syndicalisation a pris son coup. Ça, je pense qu'à travers la corruption dans la construction, la syndicalisation au Québec est en train de se faire vers le pays, là, comme elle s'est jamais fait vers le pays. Puis les jeunes travailleurs d'aujourd'hui, on le voit que ils ont pas nécessairement la même approche aussi par rapport à leur syndicat. Donc,
c'est sûr que dans l'opinion publique, là, ils ont été frappés comme ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas été frappés.
Ça, c'est une autre victoire, je pense.
C'est une c'est un avancée. Moi, je dis, c'est pas une victoire, là, mais il y a c'est un avancée, changement c'est parce que regarde, j'ai travaillé dans le manufacturier assez longtemps, puis le nombre de confidences que j'ai eu de syndiqués qui sont contre leur syndicat,
mais là, c'est les confidences, c'était à la télé. Là.
C'est ça, la différence. On dans notre vie quotidienne, là, on a tous eu des confidences de syndiqués qui disent « ça n'a pas de sens comment ça marche au Québec », qui n'en viennent pas. T'sais. Mais là, c'est bizarre. Ça a été long avec les médias s'en mêlent, entre autres parce que les journalistes eux-mêmes sont syndiqués. Hein.
Ben oui.
Mais là, je pense qu'ils ont peut-être pris conscience que ce genre de syndicat-là, écoute, c'est inacceptable. Il y a moyen de faire des affaires. T'sais. À un moment donné, il y a des choses qui deviennent indéfendables.
T'as
beau être journaliste, là, quand que la gang sont rentrés, il y a une gang sur l'an passé qui était rentrée en gang dans la salle de rédaction du Journal de Montréal. C'est pas vrai que tout le monde était derrière cette action-là. Là. Parmi les plus syndiqués du journal, c'est clair qu'ils n'étaient pas tous pour ça.
Non.
C'est des actions de même là, qui passent pas.
Oui. Puis là, ça va quand c'est dans la cour du voisin, mais justement, quand ça arrive dans ta cour, là, ça fonctionne plus. Là. Mm-hmm. Puis les gens, là, maintenant, le prennent personnel parce que là, on a vu, là, c'est des travailleurs qui se sont vus... ils ont perdu des revenus. Puis là, aujourd'hui, c'est pas comme c'était à l'époque. Là. Aujourd'hui, là, perdre une ou deux journées de salaire, ça fait mal là, dans une situation budgétaire précaire. Donc, on voit les gens qui décrivent là, rapidement, là, puis les gens vont à la caméra puis ils le disent. Donc, ça, c'est, je dirais, c'est assez important. Continuons aussi par rapport à... Puis est-ce qu'on peut assumer que le mouvement du Parti québécois, puis la corruption, puis les syndicats, est-ce que tout ça a un lien, puis l'effondrement des bloquistes? Bon, c'est sûr que l'axe de la souveraineté en a pris pour son coup, le Parti québécois en a pris pour son coup, les syndicats en ont pris pour leur coup, donc est-ce que tout ça est lié ensemble? Je le sais pas, mais c'est sûr que quand le Parti québécois va mal, ben ça va mal aussi pour les affiliations syndicales, tu sais, on s'entend. Donc, est-ce qu'on peut mettre tout ça dans la même, est-ce qu'on peut tout mettre ça dans le même panier? Pas nécessairement, mais c'est sûr que ça a été difficile aussi pour le Bloc, mais pour le Parti québécois. Ça, c'est, tant qu'à moi aussi, c'est un point assez tournant cette année, parce que là, la gauche est en train de se fragmenter. Il y a Québec solidaire, oui, qui est là depuis quelques années, mais là, on assiste là à la création d'un nouveau parti de la gauche. Donc, on n'a pas encore le nom, on sait que ça s'en vient, un de ces quatre. Puis là, il y a eu les gens qui ont quitté le parti. Il y a beaucoup de gens, des députés ou des gens qui ont déjà été ministres pour le Parti québécois, qui ont quitté en début d'année. Donc, le leadership de Mme Marois contesté, par-dessus contesté. C'est pas la première fois qu'un dirigeant du Bloc québécois, du Parti québécois, est contesté. Mais là, aussi haut et fort, ouvertement même. Mais ce qui est un peu étrange, cette année, bon, Marois qui est sorti d'un assemblée générale avec le plus fort taux qu'on a jamais vu pour l'appuyer à un chef, hein. On frôlait, je m'en souviens plus, les 94-95%. En tout cas, c'était énorme. Landry avait même pas eu ça dans ses meilleures années, même pas notre ami Lucien non plus. Donc c'était un peu étrange cette bipolarité là qu'on a connue de la gauche. Pourtant, qui sont assez structurés, contrairement à la droite, habituellement, sont bien structurés, le message est là, ils resserrent les rangs, mais là, ils se sont comme perdus un peu dans tout ça. Donc ça a été un fait, en tout cas, moi, je trouve un fait marquant en 2012. Tu sais, la gauche qui cherche, là, tu sais, puis, fait que là, quand t'as les syndicats qui sont sous pression, la gauche qui cherche, ben là, c'est le fun, parce que pour quelqu'un qui prêche, là, la liberté, la responsabilité individuelle, ben c'est de bon augure, ça. Ça veut donc dire qu'on les verra pas, là, de sitôt, là, peut-être au pouvoir, puis qu'on les verra pas nécessairement s'affilier comme ça à des syndicats puis leur donner là leur part du gâteau là puis de laisser gérer là la fonction publique au Québec. Fait que ça c'est le fun. On n'est pas encore là au changement là puis à la réingénierie de nos structures administratives, mais de tenir à l'écart comme ça un des partis qui au Québec s'est mis chummy comme on dit avec les syndicats, ben là c'est encore intéressant. Fait que moi c'était un autre fait marquant pour cette année.
Puis ce qui est drôle, c'est qu'ils se sont détruits eux-mêmes. Ça allait bien là, eux. Avant le dossier du Colisée,
ben, au début d'année, c'était sur le bon lancé.
Il était en premier dans les sondages. Ouais. Écoute, là, Marois n'était pas populaire, mais son parti, sondages l'ont donné gagnant, puis c'est une implosion interne. Là, c'est une implosion, c'est la partie de l'intérieur.
Puis,
c'est un problème. Quatre démissions, il était contre le projet du Colisée, et avec raison. C'était pas pour les mêmes raisons que moi,
non.
Mais ils étaient contre. Okay? Ouais, c'est cet argent-là, probablement, ils se disaient, faut que ça aille à la culture, pas au sport, là, les connaissants, là. Mais peu importe la raison qui faisait qu'ils étaient contre, ben écoute, c'est eux qui ont détruit le parti. Ils se sont détruits eux-mêmes. C'est ça qui est bizarre. Puis ça, moi, je mettrais pas la faute sur Pauline Marois. Je mettrais la faute sur ces gens-là.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est étrange que la gauche comme ça implose là. C'est rare. Tu sais, c'est habituellement ils vont sacrifier une personne, mais pas comme ça, plusieurs personnes.
Ils n'ont pas pensé au parti du tout dans leur action.
Non. Il y en a qui... Mais est-ce que ça montre justement un fort ego de ces gens-là?
Peut-être.
Est-ce que la gauche est aussi d'aussi bonne vertu qu'elle semble dire, hein, avec l'équité puis le respect des autres? Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr. Puis j'aimerais ça voir ce qui se dit à mot couvert ou à porte fermée. Donc ça, c'est important à retenir pour 2012, parce que ça, on verra quelles seront les conséquences de ça aux prochaines élections. On le sait que ça en vient des élections provinciales. Ben, en tout cas, potentiellement, des élections. Désolé, hein, le téléphone qui sonne. Donc, c'est ça, les élections qui s'en viennent bientôt, peut-être au Québec, on le verra. Mais c'est sûr que tout ça va laisser des traces dans le paysage québécois, parce que là... On a Québec solidaire qui remonte dans les sondages aussi, qui fait sa marque. Eux se tiennent, ont pas nécessairement, moi je trouve pas que c'est le député le c'est pas la révélation du siècle là, dans le cas d'Amir, que dire, mais bon, il a quand même l'honnêteté de tenir sa ligne de pensée, puis de d'aller chercher petit à petit et de gruger en fait, hein, au Parti québécois. Peut-être aussi des gens qui, bon, veulent retrouver un peu cette vertu-là qui était longtemps défendue par la gauche, là, donc mais ça remonte, puis on voit qu'il y a un clivage. Là, il y a un clivage à la gauche.
Il y a certaines parties du travail d'Amir Kadir qui n'est pas mauvaise.
Non, c'est ça, mais...
Mais c'est ça. Dans le fond, si le monde pouvait dire c'est bon ce qu'il fait, mais on le veut pas comme... on veut pas son parti au pouvoir, ça serait bon, parce que la partie bonne, là, quand il s'en va talonner les gens à la commission parlementaire, entre autres...
avec peu de moyens, faut se le dire. Ouais, il y a pas de grosse machine, lui, non plus.
Donc, il réussit à démontrer, des fois, à certains points que tu te dis, écoute, là, c'est pas le temps de voir si c'est un gauchiste ou non, là. Prenons ses arguments, un par un, puis disons, admettons qu'il y en a certains qui sont bons.
Mais c'est ça, encore là, c'est peut-être à cause que je suis trop rationnel, j'aime moins les gens qui sont émotifs, un peu comme lui peut l'être des fois, là, t'sais. Surtout l'épisode, pas en 2012, mais en 2011, là, c'est l'histoire des souliers, là, t'sais, je trouve que ça, il avait été un peu trop loin, puis des fois, il est en, t'sais, l'émotivité le gagne facilement, puis moi, c'est ce côté-là, des fois, que j'aime moins, puis je me dis, en tant que politicien, seul, sans dire que tu dois pas être émotif, tu dois, en fait, toujours t'assurer que tes décisions sont assez rationnelles. Donc, effondrement, j'ai appelé ça du mouvement souverainiste, donc la crise au PQ, c'était un autre événement pour moi qui est très, très, très marquant pour 2012. L'autre, je l'ai mis, c'est sûr que c'est un événement qui a eu un rayonnement, surtout en Amérique, là, à plusieurs endroits. Donc, je parle de Occupy Wall Street, mais on a connu ici au Québec, là, les Occupons Montréal, les Occupons Québec, Trois-Rivières, il y a Saguenay, en tout cas, il y en a eu peut-être... 7-8. Là-dessus, ben encore là, ça démontre quoi? Ça démontre que, bon, certaines personnes, est-ce qu'on peut critiquer ces gens-là de l'avoir fait? Bon, peut-être pas sous la forme, mais de la façon qu'ils l'ont présenté aux médias. Je pense qu'encore là, ça manquait beaucoup de lignes directes. actrice. On savait pas trop où ça allait, tout ça. En fait, même aujourd'hui, on se le demande, tu sais, quelles étaient vraiment les revendications, à qui étaient adressées ces revendications-là. Parce que maintenant, on avait l'impression que ces gens-là en avaient contre l'univers. Tu sais, on savait plus trop à qui ils en voulaient vraiment. Puis c'était pas, il y avait pas de revendications nécessairement précises. Puis encore là, c'est sûr que c'était peut-être marginal au départ. Ça l'a peut-être connu une popularité, mais je suis pas sûr que c'est toutes ces occupailles-là ou ces occupants-là en français étaient vraiment structurés ensemble. Il n'y avait pas vraiment de réseau. On semblait pas que Montréal parlait avec Québec. Puis, tu sais, on aurait dit que c'était peut-être des clans, des structures très, très fermées. Manquait beaucoup aussi de gestion d'un point de vue communication. C'est sûr, vous direz, bon, ben, on peut pas tout avoir des spécialistes en communication qui vont endormir les journalistes, mais on semblait pas vraiment avoir de voix commune ou de voix unifiée là en termes de revendications, comme je le mentionnais.
Mais aussi c'est de voir là, OK, ils ont réussi leur coup médiatique, ils l'ont reçu. Ça, ils l'ont reçu,
ouais, ça, là.
Ils l'ont réussi, mais et les résultats de ce qu'ils font, c'est ce que ça va changer dans les faits. Ce qu'ils reprochent, est-ce que ça va changer ou non? Et là-dessus, on peut pas leur donner une bonne note. Là.
Non, c'est sûr.
Moi, j'ai vu aucun. J'ai pas vu Wall Street avoir le gros shake là.
Non, comme je te dis, puis ça, c'est une leçon peut-être à tirer. Tu sais, pour certaines personnes qui voudraient des fois se lancer dans des manifestations comme ça ou dans des regroupements, tu sais, citoyens, ben il faut quand même être assez organisé, il faut préparer un peu le terrain, tu sais, c'est un peu ce que ça démontre là. On peut pas du jour au lendemain sortir comme ça dans la rue puis pensant que on va se faire entendre là. Quand je dis entendre, c'est pas le problème, c'est comme tu dis là, ils ont bien réussi, les médias se sont présentés, mais quand ça ressortait le message là, des fois c'était, tu sais, ça les ridiculisait plus que d'autres choses. Mmh.
Ben regarde, c'est pas la semaine passée. La fin de semaine passée, les mouvements de la côte ouest là, d'Occupy ont décidé d'envahir les ports.
Ouais.
Les ports maritimes. Et quand je dis qu'ils ont réussi leur coup médiatique, ça, ils l'ont réussi. Radio-Canada était sur place à Vancouver. Ben
ouais.
Il y avait 12 personnes.
Oui, c'est ça.
Mais ils étaient là pareil.
Ben oui, je sais bien.
Ils étaient là pareil. Si on compare avec la réunion du RLQ à Montréal... Les journalistes étaient là pour couvrir les manifestants.
C'est ça.
Ils étaient pas dans la salle en train de parler de ce qu'on est en train de discuter.
C'est pour ça, tu sais, je dis, il faut tirer des leçons de ça, mais il faut voir comment est-ce qu'on peut quand même aller plus loin avec ça.
C'est ça. Là, l'action, là. Les actions des coups médiatiques, à un moment donné, là, ça aussi, il faut le mesurer.
Ouais.
Puis
ouais.
À date, Occupy, il n'y a pas eu ben de... À part les médias, il n'y a pas eu d'action qui ont été entreprises.
Non.
Puis du côté de la droite aussi, là. Tu sais, je comprends, on a des beaux succès, on a des émissions, on a des journaux, on a un mouvement, mais ça n'a pas rien changé. La DQ meurt quand même, les gens votent pas à DQ, tu sais. C'est là-dessus qu'on va pouvoir mesurer.
T'es justement dans mon autre fait marquant, j'ai mis RLQ, j'ai mis gouvernement, chalut, en passant, Joanne, qui était une grande contributrice à l'émission cette année, qui a sorti un livre qui est un peu la suite à l'illusion tranquille.
Que j'attends toujours.
Oui.
Ouais, j'ai commandé.
Ouais, tu l'attends.
Ouais.
Ben il y a eu une rupture de stock, hein, pour te dire.
Ça
a connu un bon engouement, puis c'est ressorti sur les tablettes, donc tu devrais savoir ta commande. Mais c'est ça, j'ai mis un point qui s'appelle RLQ, gouvernement, toutes les initiatives de droite, je nous inclus là-dedans, évidemment, que ce soit bon tous ceux qui ont créé cette année, beaucoup de choses qui se sont mis en branle. On pensera aux gens qui ont mis sur pied le Prince Arthur Herald.
Oui.
On pensera aussi à Contrepoids, qui est là aussi maintenant dans le paysage. On a beaucoup de plateformes d'échange, même sur les réseaux sociaux. Je veux dire, la droite s'est exprimée, comme tout le monde s'est exprimé. Par contre, c'est sûr que c'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Qu'est-ce qui en reste? C'est peut-être ça.
Il y a encore beaucoup de chemin
ouais,
à faire. Comment qu'on va le faire?
C'est ça. Fait que c'est un peu c'est un peu 2012, un point d'arrêt marquant.
C'est majeur.
C'est majeur. Mais c'est ça. Est-ce que ça va vers le haut ou vers le bas? Tu sais, est-ce qu'on sent là, c'est quelle est la tendance dans tout ça? Bon, j'écoutais certaines personnes dire que effectivement, c'est un avancé important, oui, mais les résultats, je veux dire, en fin de compte, qu'est-ce que ça a changé dans? Puis c'est pas d'être populiste, mais qu'est-ce que le monsieur, madame, tout le monde en a retenu de ça? Est-ce que les rencontres du réseau Liberté Québec, est-ce que ça a été des happenings ou des moments de couverture médiatique uniquement où les gens ont vraiment retenu que la droite et il y a des gens qui avaient vraiment à cœur justement la prise de conscience que les gens de droite diront justement une prise de conscience orientée sur les libertés, sur les la responsabilité individuelle, mais somme toute c'est ça, c'est le résultat, hein. Puis assez souvent les gens, et puis si tu vas dans le milieu des affaires, les gens vont dire ouais, c'est bien le fun ta présentation ou ta prestation ou ton produit, mais c'est quoi les résultats, c'est quoi les bénéfices, hein? On se questionne même nous à la droite souvent aussi quand on regarde des programmes, on dit ben c'est quoi les bénéfices de ces choses-là, puis c'est quoi les résultats.
Je pense que la manière qu'il faut voir ça, c'est un peu le slogan qui avait été lancé au début du RLQ, c'est la droite s'organise.
Ouais, c'est
donc
ça.
Donc on est au début.
Ouais.
On est au début. Mais il faut que ça se mesure.
Oui, tout là, à fait.
La mesure va se prendre si jamais Charest attendait à la fin 2013 là, pour déclencher les élections, là, peut-être qu'on aurait une mesure qu'on pourrait prendre si...
Ouais, je
pense que tu vas en parler tantôt, ouais. Là. Si l'opportunité là, et l'espace qui vient de se libérer là.
Ouais, ben parlons-en.
Côté de l'échelle de droite.
Ben c'est ça.
C'est dès le début de 2012, faut que ça se fasse.
Puis pour moi en fait, garde. Avant d'en parler, je vous glisse quatre points marquants à l'international, vite okay. Comme ça.
Ouais,
bon, le printemps arabe, là, la révolution hein, qu'on a connue tôt en début d'année qui a laissé son empreinte sur les médias sociaux, utilisation de Twitter, Facebook, qui a permis à un peuple de s'exprimer, et puis qui va rendre la tâche difficile aux dictateurs dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, on peut pas astreindre les gens là, et puis les obliger à se fermer la boîte, comme on dit en bon québécois, ne pas dire la gueule. Autre point, crise de la zone euro. Ça c'est méchant.
Ça c'est majeur.
La pointe de l'iceberg, c'est quand on a commencé à entendre parler des difficultés, bon, de la Grèce, il y avait l'Espagne, mais là, c'est vraiment une crise généralisée. Puis là, écoutez, aujourd'hui, dans les dernières semaines, c'est pas très rose là. Puis quand on entend les dirigeants là. comment je pourrais dire, faire leur argumentaire, parce que là, il y a toute qu'une séduction qui est en train de se faire auprès de la zone euro pour conserver dans eux les acquis par rapport aux pays qui sont là, mais là, l'Angleterre ne laisse pas sa place, la France, l'Allemagne, donc il y a vraiment une crise importante, puis ça, oubliez pas que ça peut affecter du jour au lendemain l'économie mondiale et surtout amener un déséquilibre assez important par rapport à une zone qui, puis l'euro était quand même une monnaie en pleine progression hein, qui a connu vraiment des sommets là autour des années 2010-2011, mais là 2012 très 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 difficile, puis là on se retrouve dans une Europe, est-ce qu'on peut dire renouvelée? Oui, avec la dernière constitution, parce que là on a créé des instances suprêmes là qui au niveau de l'Europe vont approuver les dépenses, les budgets de chacun des pays qui vont faire partie de l'Europe, mais c'est sûr qu'on met surtout des systèmes de protection, mais est-ce que concrètement l'Italien, l'Allemand va s'y retrouver, l'Ukrainien, tous ces gens-là qui vivent des réalités différentes, qui sont dans des économies différentes, puis comment est-ce que l'Allemagne, c'est un peu comme ici là, au Canada, longtemps on a pensé que peut-être le Québec serait le premier à être souverain, mais on voit que c'est peut-être l'Alberta, c'est peut-être la Colombie-Britannique. Donc les Allemands qui s'en tirent extrêmement bien, qui vont bien économiquement, qui sont vraiment actuellement ceux qui sont la vache à lait, hein. Puis je pense que si l'Europe s'en va vers une péréquation comme on connaît nous aussi au Canada, ça pourrait créer des beaucoup de difficultés culturelles. puis il faut comprendre là, c'est pas, on parle pas du bas puis du haut Canada là, tu sais. Quand on parle de l'Europe là, on parle d'un, tu sais, d'un continent qui s'étend là avec des cultures et des réalités tout à fait différentes. Fait que ça pourrait, écoutez, est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait revivre certaines guerres, peut-être. Écoutez là, en Grèce là, ça l'a bardé là, puis en Espagne aussi là. Fait que quand le taux de chômage est rendu à 22% puis 23% dans ton pays là, quand c'est une personne sur quatre qui travaille pas, t'auras bien beau avoir toutes les belles résolutions que tu veux là, puis l'instinct suprême, mais la loi de l'instinct de survie là, tu sais, comme on dit, la pyramide de Maslow là. Elle va prendre le dessus là, fait que faut faire attention à ça. Je vous dirais là, ne riez pas puis dites pas nous au Canada, non, tu sais, je veux dire, faites attention à ça. Fait qu'il faut avoir un gouvernement qui est quand même propre, proche de d'une saine gestion. C'est pour ça qu'il faut avoir pas un gouvernement centralisateur, mais un gouvernement décentralisateur en termes de pouvoir aux provinces, mais surtout aussi en termes de bureaucratisation. Donc, puis le régime des armes à feu, ben enfin au Canada, on n'aura peut-être pas mis les millions ou les milliards qu'on pensait à poursuivre dans ce registre-là. Je continue la mort de, évidemment, Muammar Kadhafi, qui à l'international a créé ou a fait évidemment couler beaucoup d'encre et de bit and bytes sur les réseaux sociaux. Et aussi, je termine avec ça, la mort de Oussama Ben Laden, qui cette année a été capturé et évidemment tué sur le coup. Donc, je reviens au Québec parce que je voulais en faire un point de discussion aussi. C'est tout ce qui concerne la fusion entre la coalition et évidemment l'ADQ, donc la coalition pour l'avenir du Québec, qui est en train de, en fin de compte, de faire, on dit ça en termes anglais, quand on parle de fusion, on dit un œuf hostile, en fin de compte, c'est quasiment en hostilité, là, où on est en train de faire une emprise complète sur l'ADQ. Je sais que ça fait parler beaucoup les gens de la droite, de centre-droit aussi, des gens qui se positionnent, soit de façon favorable ou défavorable. Est-ce qu'on appuie, on y va plutôt à l'inverse, on ne confirme pas cette fusion-là. C'est sûr que les membres de la DQ, ce qu'on a découvert dans les dernières semaines, ils sont pas énormes, hein. Ils sont 2500 membres, à peu près les chiffres, là.
À peu près.
Et, on se rend compte que c'est difficile aussi, moi, je parle d'un point de vue personnel, d'accorder une importance à la marque ADQ. Est-ce qu'on veut vraiment continuer à utiliser cette marque-là? Je sais qu'on se discute à savoir, on discute énormément à savoir si on devrait garder les acquis, l'ADQ, pour poursuivre, évidemment, dans une droite plus forte, où on les laisse carrément aller aux caquistes. Je sais pas, et c'est sûr que il faudrait faire peut-être des analyses plus profonde, de voir ce que chaque avancée dans la négociation peut avoir comme répercussion. Mais fondamentalement, est-ce que les gens de droite sont prêts à sacrifier des orientations, des lignes directrices par rapport à leurs pensées, à leurs valeurs, à leurs convictions, pour ultimement renflouer une dette d'un parti pour bien paraître aux yeux de l'appareil? Je pense pas. Je pense qu'on se retrouve aujourd'hui, les gens de droite, puis je suis un des premiers qui avait dit, OK, pourquoi pas la fusion? Ce serait intéressant, peut-être, tu sais, de profiter, en fin de compte, de la popularité.
La stratégie.
Ouais, c'est ça, mais là, je m'aperçois que c'était une stratégie à Saint-Saëns, parce que, en fin de compte, ce qui, moi, me déçoit personnellement, c'est en anglais, on dit le takeover, là, qui est en train de se faire d'un parti qui n'était pas au Parlement, en fait, qui n'est même pas un parti, hein, donc d'une organisation extérieure au parti qui vient comme ça avaler un parti qui est là depuis fort nombre d'années, qui a été mis puis de l'avant grâce à des individus qui ont cru en l'ADQ. C'est sûr que c'est triste, peut-être plus pour ces gens-là aujourd'hui. Moi, j'ai jamais eu ma carte de membre. Je sais pas
non
si
plus,
Danny, toi,
non plus.
J'ai jamais eu ma carte de membre de l'ADQ. C'est sûr que ça a été toujours le parti qui a rapproché le plus mes valeurs, mais je suis pas prêt à défendre ce parti-là jusqu'à ma mort, puisque si les dirigeants, puis c'est sûr que c'est malheureux là-dedans, les membres ont peut-être, et puis on s'est fait un peu, même ici à l'émission, bullshiter par rapport à l'orientation qui devait normalement être prise. On nous a laissé croire que, bon, c'était des discussions ouvertes, que tout ça allait être partagé, hein, avec l'exécutif. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'exécutif est même pas d'accord tout à fait avec la démarche. pour en avoir vu les soubresauts dans les dernières semaines, on se rend compte que c'est très difficile. Mais si on regarde vraiment au-dessus de la forêt, au-dessus de la mêlée par rapport à tout ça, comment aujourd'hui, si on est un libre penseur de droite et puis qu'on veut évidemment orchestrer ce changement-là, est-ce que ça peut se faire à travers cette fusion-là? Je pense que la réponse est non, sachant que les caquistes sont surtout des politiciens recyclés avec des vieilles politiques qui sont surtout centrés sur des stratégies qui vont remettre de l'avant l'État québécois pour résoudre tous les problèmes de la planète. On se retrouve aussi, nous, les gens de droite, difficilement à travers l'ADQ, qui même sans fusion avait beaucoup de difficultés à rassembler. Moi et toi, on avait partagé personnellement un peu notre lecture, surtout quand on avait assisté l'année passée au premier rassemblement du Réseau Liberté Québec, où c'était l'occasion pour Gérard de s'adresser à son public cible. Puis moi, tant qu'à moi, il a raté le rendez-vous. J'étais très déçu, surtout de lui, parce que je m'attendais vraiment à quelqu'un qui allait... Et oui, il était gonflé à bloc, mais je m'attendais à ce qu'il fracasse vraiment la salle où on était, parce que je me suis dit, juste à dire vraiment les choses qui sont valorisées par les gens de droite, puis ça va être des gens qui vont être conquis, puis mais non, au contraire, il nous a déçus par
mais c'est pas tout le monde. Moi, je pense qu'on était dans la minorité des gens qui étaient déçus. Ouais. Parce qu'il a fait un... au contraire, il était enflammé, mais moi, je trouvais ça fauné, tu sais, c'était comme... Ouais, OK.
Ouais, c'était stagé.
Mais hein. Tes actions à l'Assemblée nationale, là, eux autres, là, quand est-ce qu'ils vont suivre les babines, tu sais, on avait parlé de la fois où est-ce qu'il avait donné son OK pour attribuer le contrat à Bombardier sans appel d'offres, là, c'est pas de droite de faire ça, là.
T'sais, non, mais justement...
C'était plein d'actions comme ça, tu regardes les votes à l'Assemblée nationale versus ce qu'il dit, tu dis, il est où son... Il est de droite où, lui, là, à part dans les discours? Dis, il est fier conservateur depuis sa jeunesse, ouais, puis tes actions, les autres, ils vont paraître quand? T'es pas au pouvoir, donc c'est difficile pour toi d'agir, mais il y a des votes qui se prennent à l'Assemblée nationale, puis c'est là, faut que tu demandes que t'es un adéquiste.
Là-dessus, je te le donne, sûr que il aurait pu, évidemment, comme tu dis, là, avoir une ligne de parti puis présente à travers ses votes, mais...
C'est sa seule moyen.
Mais moi, je trouve que quand on était là au rassemblement du Réseau Liberté Québec, je trouve que, surtout qu'il a mis l'emphase sur le mot « centre-droit », c'est on voyait qu'il se corrigeait.
Il disait qu'il ne fallait pas avoir peur de se dire de centre-droit.
Oui, je sais, mais blablabla. Pourtant, il semblait, tu sais, dès le départ, avoir des convictions à droite, puis dire, écoutez, on va mettre le feu dans l'État québécois. Puis là, qui s'adresse à un public cible qui est de droite, puis qui utilise plutôt un mot qui est... Moi, en tout cas, m'a mis mal à l'aise.
Non, ouais, non, moi, c'est le contraire. Non. Moi, c'est le contraire. Moi, je me trouvais qu'il s'était adapté au public, mais que si on regardait, si on fouillait, on voyait que ce gars-là, il n'agit pas en gars de droite.
C'est ça, définitivement.
On l'a pas vu de la même
manière. Non, ben c'est ça. Mais je l'avais déjà classé là-dessus. Mais je m'étais dit, bon, il va en profiter, il va avoir un public cible. Tu sais, parce que il y avait des allocutions, puis par le passé, il a quand même, tu sais, il a fracassé un peu là les médias, là, quand il est allé voir les syndicats, les affronter, puis ainsi de suite. Là, il a quand même brassé, tu sais, des choses de façon... assez importante, mais on dirait que ça finissait en un cul de poisson, cette histoire-là. Puis, tu sais, je suis pas surpris aujourd'hui non plus de voir toutes les discussions qu'il y a pu avoir avec Legault sur la mise en place là d'un, on peut dire d'un agenda caché qu'il y avait les deux, je sais pas, mais on voit que il y a eu beaucoup de manipulation.
Si l'article qui est sorti dans les derniers jours de Denis Lessard est vrai, puis que ça se négociait depuis mai, tu te dis, on comprend pourquoi qu'on n'a pas entendu parler de Gérard Deltel depuis au moins au moins janvier, certain.
Mais quand on en a parlé à l'émission avec Joanne, c'était en mai aussi, hein, puis c'est là que les rumeurs avaient commencé à circuler.
Les autres, ils niaient ça.
Ouais, je sais, mais justement, de nier, c'est peut-être aussi d'avouer. Mais comme je dis, mon approche là-dessus, je pensais que l'ADQ avait vraiment une meilleure approche par rapport au rôle qu'elle allait jouer dans cette fusion-là, mais là, on voit que c'est un qui avale l'autre, là, tout simplement.
C'est la victoire des carriéristes
Ouais.
du parti.
Mais
ceux qui disent, si je veux avoir, quelles sont mes chances d'avoir le, où est-ce qu'il faut que je vote pour avoir, où est-ce que je vais avoir le plus de chances d'avoir un emploi après? C'est,
Mais c'est carrément ça. Qu'est-ce que ça veut donc dire, ça?
Thibault nous a bullshité. Ouais, ouais. On a eu Thibault, là, la dernière fois, là. Il nous a bullshité en nom.
Mais.
Quand même,
mais qu'est-ce que ça veut dire pour la droite? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Est-ce qu'on est on est rendu au point où on a abandonné l'idée de nos convictions puis qu'on est prêt à se têter une job, comme tu dis?
Je sais pas, moi je comprends pas les gens. Je comprends pas les gens qui veulent sauver la DQ. Le nom, il est fini. Sauvez-le pas. Laissez-le se faire avaler. Prenez votre carte de membre, retournez-la. OK? Vous êtes contre, là? Retournez-la. OK? Oublie ça, là. La DQ, imagine là, le traitement médiatique si les membres votent contre. Premièrement, qu'est-ce que Bonardel fait? Il lâche la DQ, il s'en va à la coalition, non, là. Deltel, je sais pas, il va perdre la face, il mériterait de démissionner.
Ben ouais, c'est
sûr.
S'il y a
un peu d'orgueil, il démissionnerait. Ça se fait pas. La marque est brûlée. Pourquoi vouloir sauver ce nom-là? Il est brûlé, le nom. Il est brûlé, brûlé. Ceux qui sont contre, là, arrêtez de vous battre. Déchirez-la. OK? Puis on commencera. Puis moi, là, je suis quasiment décidé que s'il y a un parti qui se présente, puis qui représente vraiment ce qui manquait à la DQ, puis qui se fait un beau parti, là, je pense que j'ai toujours voulu ne jamais prendre de carte politique, mais là, je pense de la prendre.
Ouais, ouais.
OK? Mais faites-la. Moi, je peux pas le faire. J'ai aucun impact. Ça prend quelqu'un qui a de l'impact,
ouais, ouais, c'est ça,
qui est intelligent et qui a des couilles.
Fait que toi, t'es en train de dire que tous ceux qui font partie de l'ADQ, qui décrit l'ADQ, la fusion, en fait, entre l'ADQ et la coalition, ben, investissez-vous peut-être dans une énergie qui va être bénéfique d'un point de vue droite, parce que là,
ben, je pense que oui.
Puis il y a des gens, comme tu dis, là, d'être intelligent, d'avoir une certaine
du courage,
tout ça. Il y a des gens qui se sont manifestés là à travers tout ça, là, qui ont décrié tout haut et fort. Fait que c'est des gens qui pourraient être porteurs, justement, de, je pense, mais là, c'est ça. Est-ce que c'est là qu'on rentre dans le discours où les gens vont dire, ouais, mais, tu sais, il y a quand même des acquis, la DQ est là, c'est un parti qui existe, qui a quand même accès à la colline parlementaire, qui a des députés en chambre. Tu sais, là, de repartir à zéro, c'est vraiment repartir à zéro. Donc là, c'est là où je pense que les gens de droite assument mal peut-être le fait qu'il y aura à reconquérir, oui, peut-être la faveur populaire, mais avec un véhicule, un parti beaucoup plus clair en termes d'objectifs et de lignes directrices, pourrait faire en sorte que... Parce que c'est sûr que, puis pour ne pas le nommer, Adrien Pouliot revient souvent avec les 1 200 000 qui ont voté pour l'ADQ en 2007. Mais est-ce que c'était... Bon, on a déjà entendu l'expression des virevents. Est-ce que c'était des virevents, ces personnes-là? Est-ce que c'était vraiment des gens qui avaient pris le temps de lire le programme, qui avaient vraiment, vraiment des visées en termes de diminuer la taille de l'État, qui avait, tu sais, est-ce que c'est ces gens-là qui ont voté, ou on a une partie des gens qui avaient voté, qui ont voté en 2011 au fédéral pour les NPD? Parce que ce qui est insensé pour moi, c'est que ce qu'on a vu en début d'année, c'est que le Bloc québécois, pas le Bloc, je sais pas ce que j'ai à dire, le Bloc ce soir quand je parle du Parti québécois, mais le Parti québécois en début d'année, dans les sondages, était à 32%. Comment est-ce qu'aujourd'hui les caquistes peuvent se retrouver avec ça? Ben c'est parce que c'est les mêmes personnes, tu sais, c'est pas des gens de droite là, c'est des gens de gauche là ou de centre gauche qui votent, qui ont déjà voté pour l'ADQ. Moi c'est ma lecture. Moi je pense que cette base là n'existe pas. On n'a pas 1 200 000 personnes de droite.
Non, mais encore là, c'est des défis de la pédagogie.
Si on en a 500 000, c'est peut-être mieux de les conserver puis de leur donner vraiment pleine satisfaction, parce qu'il y a ça aujourd'hui aussi. Il y a un paquet de gens de droite qui n'ont pas eu pleine satisfaction avec la BQ,
qui était là.
Sur l'1 200 000, il y en a peut-être 600 000
là. C'est ça, qui n'avaient pas voté. Qui n'avaient pas retourné voter.
Non.
Donc, c'est pas tous des adéquistes déçus qui n'ont pas été votés, non, mais quand même, ils devaient avoir une maudite bonne gang, parce que les résultats des autres partis étaient demeurés les mêmes, ou presque. Donc, essayez de voir, mais... Encore là, si ça crée un nouveau parti, puis que la pédagogie est bien faite, ça peut avoir un très gros impact, puis très rapidement. Puis deuxièmement, moi, je sais, on n'est pas écouté par ces gens-là, mais quand même, moi, je me dis, si jamais ce podcast-là se rend aux oreilles de Jean Charest, M. Charest, refuser la demande du CAQ d'avoir le budget de la DQ, c'est plus le même parti.
Ah, mais c'est,
pourquoi, j'espère. Pourquoi il faudrait donner le ben c'est quoi? C'est 800 000 par année?
C'est 800 000, c'est ça.
T'es pas obligé, M. Charest. OK? T'es pas obligé. Ils veulent faire la il y en a qui disent la guidoune, là. Ils veulent faire la guidoune, pas obligé de les payer. Vous êtes pas obligé. Il y a sûrement des lois du Parlement qui pourraient faire en sorte qu'ils ont le droit de pas leur donner. Parce que
cet argent-là
a été donné en fonction de qu'ils ont reçu un certain nombre de votes.
Ah oui, mais
c'est là, pour ça. C'est pour ça que je pensais que
la DQ allait jouer ces cartes-là, puis elle allait être beaucoup plus présente à la table et aurait vraiment occupé, là, tu sais, quasiment 50% en même temps, là, dès le départ, le balancement qu'on peut retrouver en termes d'image, puis ce qui est projeté. Là, on voit que c'est le logo qui mène le bal, tu sais. Mm-hmm. Deltel, il va être effacé, là. Dans un an, on n'en parlera plus, là.
Mm. Puis comme on se disait, nous, on s'est beaucoup jasé, là-dessus, là, entre autres, mais. Je trouve qu'il y a le seul avantage qu'il y a, c'est que si jamais il prend le pouvoir, il tasse Jean Charest.
Ouais.
C'est le seul avantage. C'est le seul avantage de la CAQ, là, c'est que peut-être qu'il y a une chance de se débarrasser de ce gars-là.
Ouais.
Mais là, je viens de demander une faveur à Charest, donc faut que je sois gentil. Monsieur Charest, si vous avez le droit de refuser de donner le budget au nouveau parti, faites-le. Faites-le. Ouais. Respectez le vote des gens. Les gens avaient voté ADQ. Donc, respecter le vote.
C'est ça. Oui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de frustration aussi de la part des gens qui se sont, d'un, investis, d'un, de ceux qui ont acheté des cartes de membres, puis de ceux qui ont voté. Il y a un sentiment de trahison complet, là. Mmh, là, il est total. Oui. Mmh. Il est total.
Pour ceux qui ne voient pas davantage non, carriériste à faire l'affaire.
Effectivement.
Mais moi, j'ai hâte de voir. J'ai très hâte de voir le résultat du vote.
Oui.
Bien meilleur de voir ça.
Mais en même temps, c'est ça. L'ADQ a déçu, puis la course à la chefferie aussi. Ça n'a pas lieu en 2011, là, mais ça a laissé ses traces. Mm-hmm. Puis depuis ce temps-là, c'est très difficile pour eux d'avoir une crédibilité médiatique. Là.
Mm-hmm.
On le sait que c'est les dindons de la farce hein, quand mm-hmm. on en parle dans les médias. Là.
Mm-hmm.
À part quelques médias, puis nous, évidemment. Est-ce qu'on est pro-adéquiste? Non, mais on favorise quand même un parti qui a un alignement, en tout cas, qui est à quelques millièmes près, là, tu sais. Mm. Beaucoup plus que peut-être le prochain parti. Je suis un peu déçu. Fondamentalement, j'aurais cru à une stratégie, une manigance politique, mais c'était peut-être dans mes rêves. Mm. C'était peut-être dans ma tête, là. Mais aujourd'hui, évidemment, je suis très, très, très déçu.
Ce qu'on voit, c'est que ma
position est la même que la tienne.
C'est ça.
Le nom est brûlé. Donc, tant qu'à ça, laissez-le.
Ça donne rien.
Puis, si on va jusqu'au bout, le nom est brûlé. C'est pas la même entité, ben pas de subvention, puis je m'excuse Legault, mais tu sais, repasse avec
lui.
Ben, c'est ça. Ben, je suis pas inquiet pour lui, là. Il y a, y a des appuis, comme tu dis, des amis, des pitounes, là. Tu sais, des. Comment est-ce qu'on appelle ça? Là,
des guidounes,
pas des pitounes, des guidounes, là, qui sont prêts à laisser leurs convictions, leurs valeurs dans leur petite mallette pour avoir justement une position.
C'est ça. Puis le parti dont on rêve, là, c'est le parti qui, à chaque idée qui sort, il faut que l'idée passe dans le filtre qui dit c'est-tu dans notre philosophie ou non.
Ben, c'est ça.
Si Charest, mettons, il est au pouvoir puis il fait quelque chose de bien par rapport à la philosophie de liberté et responsabilité individuelle, tu dis Monsieur Charest, je vous appuie.
Ouais, là-dessus.
Puis si c'est contraire, ouais, c'est ça. Sur ce sujet-là, je t'appuie. Sur celui-là, on passe l'idée dans le filtre, c'est non. Celle-là, c'est peut-être, mais il manque ça. On peut-tu avoir de la politique intelligente? Okay. On pensait avoir... En 2007, là, on pensait avoir voté pour un parti, justement, différent. Tu sais, là, le mot « autrement », là, que le PQ essaie de passer, la politique autrement, là, ça serait ça. OK? Quand on a élu la DQ en 2007, c'est devenu l'opposition officielle. On se disait, c'est comme ça qu'ils vont penser. OK? Mais non, ça a été... On fait de l'opposition pour s'opposer. Puis c'est tout. Ça a écœuré bien du monde. C'est-à-dire, il y a des gens qui se plaignent là, pour le doublage des films en français au Québec. On va défendre leur cause, on est dans l'opposition. C'est pas ça qu'on voulait. Non. On voulait de la politique autrement. Vous l'avez pas fait. Moi, je trouve que l'ADQ a trop payé cher pour ça, personnellement, en 2008. Je pense que la population était extrêmement sévère avec eux. On dirait que c'était eux qui étaient au pouvoir puis qui ont été punis par les électeurs. Ouais. 2008, je comprends pas le résultat de 2008. Sérieux, moi, je le comprendrai jamais aussi drastique, là, la chute, là. Mais quand même, tu sais. Ça prend un parti qui va prendre les idées une par une, qui va le passer dans le filtre de la responsabilité, liberté individuelle, qui va dire, voilà. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Mais... il manque ça pour que ça soit bien. Ça, on peut l'améliorer. Mais toujours de penser à les missions essentielles.
Je te pose une question, bien honnêtement. Parce que là, écoute, mettons que, à moins d'un revirement de situation, là, il n'y en a plus d'ADQ, OK? Fait qu'il n'y a pas de véhicule à court terme, il n'y a pas de parti politique au Québec. On va dire purement à droite. Est-ce que ça pourrait pas être justement le rôle qu'on pourrait se donner, nous, gens de droite, par rapport justement même à une implication du réseau Liberté Québec, puis du mouvement citoyen, puis peu importe, là, d'agir à titre d'aiguilleur par rapport à une politique qui pourrait se faire autrement. Bon, est-ce que c'est avec la coalition, est-ce que c'est avec les libéraux, je sais pas. Mais est-ce que tu penses que ça serait envisageable et qu'on pourrait vraiment activer là, justement tous ces leviers-là par rapport au changement? Parce que là, il y a un sentiment d'urgence. Moi, je sais pas, là, c'est toujours ça que je reviens toujours à ce foutu sentiment d'urgence-là. Mais là, c'est parce que si on rate le train, dans quelques années, on est foutu collectivement. Fait qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être envisageable, possible, et même ça pourrait donner des résultats? Est-ce qu'on pourrait être entendu?
Ben,
est-ce que tu penses?
C'est pas facile.
Parce que tu sais, c'est ça qu'on a toujours pensé que oui, effectivement, en 2006, en 2007, avec l'ADQ, qu'on avait comme, tu sais, une relation, tu sais, particulière, puis que parce c'était possible. Mais,
parce qu'il se disait le parti de la classe moyenne.
Puis je suis pas en train de mettre de l'eau dans mon vin. Je suis pas en train de dire que demain matin, Legault, ça va être le parfait amour, là. Ni Jean Charest ou son remplaçant ou sa remplaçante. Mais est-ce que nos gouvernements, parce que là, ils s'installent aussi chez eux un sentiment d'urgence, là. Ils le voient venir, le train, là. Hein? Mm-hmm. Par rapport au fonds de pension, par rapport au domaine de la santé, par rapport à l'éducation, est-ce qu'il pourrait développer cette fibre-là? Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans un modèle politique où on pourrait, nous, en tant que gens de droite, se faire écouter davantage, influencer, tu sais, avoir une petite victoire, là, tu sais? Je sais pas.
C'est dur à dire.
Dur à dire, hein? Parce que je me dis, à court terme, si on n'a plus de véhicule, tu sais, le temps de remettre sur pied un parti, de recréer une base, d'aller rechercher, toutes les gens qui vont s'impliquer, qui vont se présenter à des élections, les députés, aller voter, puis là, tout ça, tu sais, je veux dire, c'est ça qui m'attriste là-dedans, là. Puis là, je cherchais une pièce ce soir, je voulais mettre Western Years, parce que moi, j'ai l'impression que le recul le plus important qu'on a avec la fusion entre la DQ puis la coalition, c'est le fait que là, on vient de régresser, on vient de, en fait, tout le travail, écoute, qui a été fait, là, à la sueur du front de Mario Dumont, de Monsieur Allard, de tout le monde, qui se sont impliqués, des exécutifs dans chacune des régions, des membres, j'ai l'impression que tout ça, là, du jour au lendemain, on met ça à la poubelle. Oui, ça l'a changé dans la tête des gens, peut-être des réflexions, ça a amené peut-être des réflexions, puis avec vont dire, oh oui, la DQ a amené sur la place publique des débats qu'on n'avait pas avant, mais le contexte économique, il a évolué aussi rapidement, tu sais, il y a une partie de ces débats-là ou de ces réflexions-là qui sont arrivées aussi par la force des choses. La DQ, c'est sûr, la priorité, la famille là-dedans, puis la liberté de choix, puis oui, mais tu sais, fondamentalement, est-ce que tout ça va être reconduit à travers les partis qui vont avaler l'ADQ? Non. Puis les libéraux l'ont utilisé en tant que slogan, mais on le sait, ils l'ont jamais décliné vraiment quand ils ont été au pouvoir. Fait qu'on est mal foutu, là, on vient de perdre toutes ces années-là. Là. C'est
mais
ça.
Mais ils sont perdus, dans le fond, c'est sûr. Mais ils sont perdus de toute façon.
Oui, mais tu sais, on avait toujours espoir. Tu comprends, on avait toujours espoir. Même dans les dernières élections partielles, Bonaventure, on avait espoir au moins que le DQ aille un petit peu plus, mais là, tu sais, je veux dire, c'est une gifle par-dessus une gifle.
Mais c'est comme s'il n'avait pas fait de campagne. Les gens ne savaient pas pour qui votaient, s'ils votaient à DQ.
Tu sais, fait que...
Pour lequel des ADQ ils votaient, ils ne savaient pas.
Mais, tu sais, c'est ça qui est ma plus grande crainte, là, Danny. Je sais pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Parce que j'ai l'impression qu'au Québec, au niveau provincial, contrairement à ce qu'on peut vivre au fédéral, là, on est en retard, là, tu sais.
C'est
pour accéder au pouvoir, là, je parle. En tant que droitiste. Là.
Non, c'est sûr, mais je me dis, là, on est dans notre phase de pédagogie. On l'a parti. Là. C'est
ouais,
parti,
je suis d'accord.
Cette phase-là. Déjà, elle a été commencée en 2006, là, qui a été commencée. On recommence. Il faut la repartir à zéro.
Ouais.
Mais il y a plus... Moi, je trouve qu'on entend de plus en plus des intellectuels de droite. Puis ça me fait plaisir.
Ouais.
Ça me fait énormément plaisir que ça soit ça, que ce soit pas juste de la facilité de droite qu'on entend.
Je te pose une question.
C'est plus intellectuel, puis ça, c'est un bon signe. Ça, c'est bon signe, mais ça va en prendre plus. Ça va en prendre plus, puis ça va en prendre plus encore. Faut continuer la montée des débats d'idées, Mais là, il va falloir, comme je disais tantôt, là, c'est de savoir comment les débats d'idées vont se ramasser en résultat de vote.
Mais ces gens-là qui s'impliquent davantage, puis effectivement, moi, je lève mon chapeau à ça, on en voit de plus en plus. Mais t'as-tu l'impression que c'est des animaux de cirque ou on est vraiment là parce qu'on veut les avoir à la table, parce qu'on veut vraiment ouvrir le débat? Ou c'est plutôt de dire, ah, OK, on va aller chercher quelqu'un de la droite, là, puis...
Non, je pense pas.
Tu penses que... Parce que j'ai pas l'impression qu'on leur laisse quand même toute la place qu'on peut laisser. J'ai l'impression, tu sais, qu'il y a vraiment une strate importante, là, de la gauche qui est là, puis on regardera. Je juge beaucoup la télé d'État en disant ça, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment ouvert, tu sais, totalement, tu sais...
Déjà qu'on voit là, qu'il y a un changement de cap dans le journal Québec-Montréal, qui est quand même les deux journaux les plus vendus.
C'est,
déjà un bon signe. T'sais, je m'attends pas à voir un gars de droite débarquer comme chroniqueur officiel de la presse puis du Devoir.
Non, je sais.
Je m'en attends pas. Là.
Mais t'sais, c'est ça, j'aimerais...
Mais on a au moins... Il y a eu un changement, là, vraiment.
Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord que la tendance est de laisser plus de place à tous ces gens-là, mais on s'entend que c'est quand même minime.
Mais c'est plus qu'avant.
C'est plus qu'avant. Je suis d'accord. Les parts de marché ont augmenté, mais elles sont pas quand même aussi importantes que ce qu'on peut connaître ailleurs.
Donc là, quelqu'un va passer, si on continue à faire de la pédagogie comme il se fait présentement, là, il va falloir penser stratégie. Puis là, c'est là que tes plans diaboliques vont embarquer. Je trouve que là, présentement, on est dans la phase que j'aime. Et toi, tu vas être la phase suivante. Comment qu'on peut prendre ces débats d'idées-là et que ça s'en aille en vote, ça, c'est de la stratégie.
Ouais.
Et présentement, si on parle de stratégie, il faut que la DQ meure dès janvier.
Ouais.
Je l'espère.
Tu sais que tu fais... Il y a des gens que les oreilles leur tournent quand tu dis ça. Là.
J'espère.
On va faire une petite pause. C'était ma revue politique. Et puis, ben il y avait la partie, évidemment, avec la fusion ADQ... Qui a pris plus de temps, mais on voulait en parler aussi à l'émission. Je pense qu'on est directement impliqué un peu dans tout ça aussi. Donc, on va faire une pause. L'autre côté, ben on se retrouve avec toi, Danny, parce que là, t'as le spin de l'année. T'en dis plusieurs,
quelques-uns.
Ouais. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Vous écoutez, évidemment, connaître la suite. Et ben n'hésitez pas, si vous voulez correspondre avec nous ce soir, vous pouvez le faire, info@connaitrelasuite.com. I committed last night about a half past ten. That baby of mine would let me in. Hey, on est de retour pour cette dernière de l'année 2011. Les hostilités sont lancées, mais non, c'est une farce. Et oui, comme annoncé en début d'émission, il y avait la revue de l'année, en fait la revue politique. Et là, c'est sans prétention qu'on dit revue de l'année, là, parce que demain, il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Oui, on y va avec les highlights là, que nous, on a retenus. Là, mais écoutez, faut en prendre et en laisser. Là, je suis convaincu de votre côté, vous avez dit « Ah, il a oublié de parler de ça, puis ça, il l'a pas parlé. » Tu sais, il n'a pas parlé comme j'en aurais parlé, mais regardez, là, on y va comme ça. Là, on n'a pas le choix aussi. Là, on a 2 heures d'émission. Là, fait que il y en a qui font 6 épisodes de 4 heures là, pour faire des revues de l'année. Là. Puis il y en a qui le font de façon humoristique là, en 3-4 heures. Là, fait que... Là, c'est ça, t'avais des révélations à nous faire.
Des révélations?
Ben oui, non, mais les spins médiatiques.
Oui, c'est ça. Puis j'ai décidé de vous sortir quelques spins médiatiques. Donc, il y avait différentes façons de faire une revue de l'année. Puis là, j'ai dit, on va faire une petite revue. Mais ce que j'ai décidé de faire ce soir, sans te demander la permission, j'ai décidé que le réseau Antispin arrivait dedans, connaître la suite. Donc, pour une première, on y va. C'est l'heure de passer dans connaître la suite. Réseau Antispin, c'est comment que tu as dit ça tantôt, la prise hostile. Donc, réseau Antispin prend hostilement
les
le contrôle de connaître la suite.
Là, we believe, là, la fièvre commence, et là, on embarque d'année. Unleash the beast.
What? Unleash the beast?
Unleash the beast.
Unleash the fury.
Vous écoutez RAS.
RAS.
Le réseau anti-spin en haute définition.
Hey, le monde, réveillez-vous.
Hein? La revue anti-spin de l'année 2011. Avec Danny.
On dirait qu'il est jamais capable de rien faire de normal comme les autres gars. Comprends-tu ça un petit peu, c'est une petite star?
Kyrillon.
Ah, dites-nous bien que le 3/4 du temps, ce qu'il y a entre vous, la vraie histoire, c'est un hostie spécial.
Et voilà! T'es fait! Connaître la suite est investi.
Ah, j'aime ça. Unleash the beast.
Unleash the beast.
Ah, mais. You're the beast?
Ah, oui. Mais, hein. Hey, ben non. Dernière de l'année, il faut se prendre un petit peu moins au sérieux. Puis, Réseau Antispin, c'est un peu ça. C'est mon site web, c'est mon Twitter. Je me lâche lousse. C'est humoristique. Puis tout ça. Mais, je me suis dit aussi, ben, il y a l'aspect spin médiatique, politique, culturel, environnemental, syndical. Qui ont peut-être fait la manchette cette année. Donc, ma revue, c'est pas juste ça. Là. On va aller ailleurs tantôt. Là, mais je dirais y aller de quelques spins de l'année. Puis si t'en viens à l'idée, là, tu t'embarqueras là-dedans. Parce que, on a quand même. Donc, c'est quoi un spin? C'est quoi? On pourrait dire, dans un certain sens, un spin, c'est une forme de propagande. Où est-ce qu'on peut lancer une demi-vérité ou même un mensonge? Et à force de le répéter, ça devient une vérité. Donc, c'est des manières qui sont utilisées beaucoup en politique, de plus en plus, malheureusement, par nos médias qui ont une... Il y en a qui ont une orientation politique très claire, donc tu restes pas surpris quand vois un article qui a un certain angle, alors que dans d'autres, ils osent pas l'avouer publiquement, mais qui sont vraiment orientés de gauche. Et tu as des médias qui sont orientés de droite aussi, qui vont y aller... ils vont passer toute l'actualité ou tous les faits à travers le filtre de droite et qui vont laisser des fois leur cerveau de côté pour analyser certaines nouvelles, pour faire passer le point. Malheureusement, ça arrive des deux bords. Oui. Et tu sais, quand je lance ma chronique « Troisième côté de la médaille », c'est un peu ça que je veux faire comprendre aux gens, là, c'est qu'on peut déraper
Et ça, c'est comme tu dis, c'est sans prétention. Là, c'est encore là, c'est... Je pense que c'est bien de le faire, c'est sain de le faire, tu sais. Puis j'invite tout le monde à le faire. Hein. Vous devriez toujours... trouver un côté de la médaille ou de voir s'il n'y a pas un spin dans ce qu'on vous dit. Là. Mm-hmm. Parce que, sans dire qu'il y a du lavage de cerveau, il y en a des fois. Là.
C'est ça. Puis moi, ce que je demande aux Québécois, au grand complet, c'est quoi?
Aux Québécoises aussi?
Tout, incluant
le masculin, l'important sur le féminin?
C'est la paresse intellectuelle. Là, ce qu'on vous présente ouais. quelque chose, c'est carrément ça. Ah, exemple, ouais. je vais vous donner un exemple. OK? Exemple, l'intimidation.
C'est important ce que tu dis là.
Ça, le sujet de l'intimidation, là, écoute, moi aussi, je suis touché. Ça m'a fait quoi, le suicide de Marjorie Raymond, tout ça?
Qui peut être contre ça? En partant.
Exact, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a des gens de droite qui ont été trop loin dans leur analyse, qui ont carrément essayé de décider c'était quoi les vraies raisons de son suicide. C'est pas votre job de faire ça, OK? Pouvez-vous laisser ça à la famille et tout ça? De l'autre côté, ben il y en a qui ont décidé d'essayer de profiter de la vague. On peut parler un peu de Jasmin Roy avec sa fondation, qui d'un côté analyse, s'en va à Salut Bonjour, passer des extraits où est-ce que des gens d'Occupation Double s'intimident, puis de l'autre côté, il défend, il va s'en va parler ben contre ouais. l'intimidation, puis dire que c'était écœurant. Hein. Je me dis, Jasmin, ta cause est bien bonne, mais choisis tes autres mandats si tu veux être pris de façon crédible. Donc, je sais pas là, mais je trouve que ses choix sont un peu bizarres. Moi, je te dirais, continue ta cause contre l'intimidation, puis lâche Occupation Double, si tu veux être pris au sérieux.
Tu me permets-tu d'ouvrir une parenthèse? Mm-hmm. Je voulais te faire une surprise ce soir. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, parce que techniquement, j'ai pas été capable de trouver comment le faire. Mais tu parlais tantôt de ton tweet, puis de RAS là, HD qui vient de prendre le contrôle de l'émission.
Il n'y a plus de connaître la suite.
J'invite les gens vraiment à s'abonner à ton compte Twitter. Parce que justement, tu sais, tu fais une parenthèse avec Jasmin, puis tu as été le premier à décrier ça quand il a fait ses prestations. Puis t'as des tweets comme ça qui sont assez percutants. Puis si les gens veulent commencer à développer ces réflexes-là, c'est important de s'abonner à quelqu'un qui le fait déjà. Mm. Puis je voulais te sortir, moi, en fin de compte, ton top 10 des tweets qui m'avaient...
Ah ouais?
Parce que celui... écoute, dans les derniers, celui-là, tu sais, il m'a marqué. Là, okay. J'ai dit, « Hey, c'est bien vrai, tu sais. » Sérieusement, j'avais même pas pensé. Mm-hmm. Puis ça s'est adonné que... Écoute, j'étais pris à Montréal dans une chambre d'hôtel, puis j'ai vu le spécial, là... Comment c'est ça, le dîner, pas le souper des exclus, ouais, ou pas, en tout cas, à la fin, là.
Le dimanche soir.
Puis, grosse intimidation, là, tu sais. Mm-hmm. Vraiment, là, tu sais, un manque de respect flagrant, là. Puis, tu sais, on met ça prime time, là. Mm-hmm. Puis, on censure pas, là, tu sais.
Non, c'est ça.
Puis, de l'autre côté, t'as la personne qui décrit, tu sais, de l'intimité. Tu sais, c'est comme un non-sens,
c'est ça. Puis, une heure et demie plus tard, la première manchette aux nouvelles du TVA Nouvelles, c'est ça.
Ben oui.
C'est le suicide, l'intimidation, c'est écœurant, tout ça. Tu sais, ceux qui savent pas, là, j'ai peut-être pas été assez clair, mais Jasmin Roy, il se présentait, je pense, je l'ai vu la fin de semaine le faire, je sais pas si la semaine le faisait. Mais Jasmin Roy, c'était comme le chroniqueur mondain d'Occupation Double à Salut Bonjour.
Oui,
donc moi je le voyais le week-end faire ça. Et
sur
là,
le web, il était là aussi.
Aussi. Bon, il animait le web. Ah oui, c'est vrai, ça se peut. Oui. Effectivement.
Ça continuait, ça. Nous autres, on voyait à la télé là, une partie de.
Okay.
C'est un monde virtuel, ça aussi.
Mmh. Donc, je me dis, écoute, faut peut-être choisir ses causes, ses batailles, puis dire écoute, je peux peut-être perdre 15 000 $ par année. Je ne sais pas comment il est payé pour être chroniqueur. Sûrement plus que ça, là, mais tu vas être pro sérieux, choisis. Puis je te souhaite vraiment bonne chance avec ta fondation. Je suis sérieux. Là.
Oui.
Et j'y souhaite vraiment bonne chance.
Non, c'est pas ça la question. Comme tu dis, c'est aide-toi, puis en même temps, le ciel doit t'aider. Parce que
mais,
là...
C'est ça. Mais de l'autre côté, je sais que la majorité des Québécois n'avaient même pas pensé à ça. Donc, ça lui nuit probablement même pas.
Effectivement.
De faire les deux, mais moi, je lui lance le défi. Pense à ton affaire.
Oui.
Choisis. L'an prochain, si ça revient, laisse ta place à d'autres, peut-être. Donc, c'est des choses comme ça que je m'amuse à faire sur mon Twitter, Réseau Antispin sur Twitter. Faut aller voir, puis c'est de l'humour, OK, aussi, là. Donc, prenez pas ça trop à la lettre aussi, mais quand même, il y a des fonds de vérité dans ce que je dis. Dans les spins politiques de l'année, entre autres, il y en a un, moi, qui m'horripile à chaque fois, et c'est le spin politique, j'en donne un au ministre de la Santé, Yves Bolduc. Parce que sa fameuse promesse d'avoir un médecin de famille par Québécois, c'est d'un ridicule consommé. J'en reviens pas que quelqu'un... Premièrement, c'est irréalisable. Et deuxièmement, t'as pas besoin d'avoir un médecin de famille par Québécois. Arrêtez, là. Arrêtez. C'est pas tout le monde qui a besoin d'un médecin de famille. Deuxièmement, OK, j'en ai déjà parlé ailleurs. Vous avez, ceux qui me suivent peut-être depuis longtemps, vous allez peut-être être écœurés d'entendre mon histoire, mais je vais la dire pareil. Le médecin de famille, c'est pas lui que tu vas réussir à voir quand tu as une urgence. Tu vas être pogné à aller soit à l'urgence ou soit dans une clinique sans rendez-vous. Okay? Et que, le cheminement qui va arriver après ça, c'est quoi? C'est que ton dossier OK? La première question que la personne à la clinique sans rendez-vous va te demander, c'est qui ton médecin de famille? Tu dis OK, c'est X. C'est le docteur X. Et là, ce qui arrive, c'est que le médecin sans rendez-vous va faire ce qu'il a à faire, va envoyer ton dossier à ton médecin de famille, mais probablement, j'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais je suis à peu près sûr à 100% de ce que j'avance, le dossier va être ramassé par la secrétaire médicale, mis dans mon dossier, et mon médecin ne va le revoir cette affaire-là que lorsque je vais aller le rencontrer.
C'est ça.
S'il décide de feuilleter mon dossier en me rencontrant. S'il décide de pas le feuilleter, mais que j'aille voir mon médecin de famille, ça n'aura rien donné d'en avoir un médecin de famille. OK? Donc, la façon que ça marche au Québec, là, premièrement, arrête de promettre des choses que c'est impossible à faire, mais deuxièmement, là, réfléchis. Réfléchis un peu, OK? Parce que ce que ça prend, là, la solution pour ça, c'est pas un médecin de famille par Québécois que ça prend. Ça prend le système informatisé de gestion des dossiers. Okay?
Le DSQ.
Le DSQ. Pourquoi que ça prend ça? Ça, ça veut dire que si je m'en vais voir mon médecin, le médecin de sans rendez-vous, il va avoir mon dossier au complet devant lui. OK? Puis s'il a mon dossier au complet devant lui, j'ai plus besoin de médecin de famille. Ça veut dire que n'importe quel médecin que je vais aller voir va avoir mon pédigree complet.
C'est encore plus important là, ce que tu dis là.
Puis si le dossier est bien fait, là, je sais pas comment que ça va être fait, mais s'il est bien fait, là, tu vas pouvoir cliquer puis dire, OK, lui, oh, voici ses médicaments qu'il prend. Oh, ses trois derniers tests sanguins, il y avait ci, ça de problème. Ses trois dernières prises de haute pression, c'était ça. T'sais, imagine, là, une espèce de tweet deck, là. Ou est-ce que t'as toutes les... C'est vrai, c'est niaiseux, mais t'as toutes les pédigrées sur trois ou quatre colonnes, là, puis t'as toutes les pédigrées, t'as plus besoin de médecin de famille quand t'as un dossier informatique. Parce que présentement, notre médecin de famille, il sert de classeur. Il prend tous tes dossiers.
Monclasseur.ca.
C'est ça, monclasseur, tu sais. Donc, lui arrive, puis bon, il y a un beau dossier à ton nom, puis tout est rassemblé
papier,
là.
Papier. Très efficace.
C'est ça, tout est là. Bravo à la secrétaire qui classe ça comme il faut, mais ça sert-tu vraiment à quelque chose? Moi, si je suis content, j'en ai un bon médecin de famille, OK? Puis il m'impressionne à chaque fois depuis que je suis à Québec, là, j'en reviens pas. Je suis vraiment satisfait de mon médecin de famille. Parce que lui, il prend le temps de lire mes affaires, puis il dit, hey, c'est vrai, t'avais été passé telle affaire, qu'est-ce que ça dit? OK? Il est vraiment suivi, puis en plus, il est à l'heure. J'ai jamais attendu plus que 10 minutes par rapport à l'heure de mon rendez-vous avec mon médecin de famille.
Hey, okay? C'est bon, ça.
Donc, c'est pas une
t'es choyé, je peux te dire.
C'est ça. C'est pas une frustration contre mon médecin personnel. C'est une frustration de se faire passer un spin innocent comme ça. Puis, deuxièmement, t'analyses la réalité puis tu te dis pourquoi j'aurais un médecin de famille le jour où est-ce qu'on a un dossier informatisé.
Je comprends.
Il n'y en a plus de problème.
La logique est évidente.
Exact. Donc, arrêtez de nous bullshiter avec des niaises, des fausses promesses irréalisables comme ça, là, et pensez un peu. Puis, je ne sais pas, des fois, je me dis, ces ministres-là, c'est quand la dernière fois qu'ils ont pris un café avec un nobody? T'sais, pour jaser, pour avoir un reality check, t'sais.
Oh oui.
T'sais, c'est quand la dernière fois?
Un reality puis un sanity check.
C'est ça, t'sais. Si tu, et lui, à chaque fois qu'il boit quelque chose, c'est de l'eau de source la plus chère, puis un porto, puis un cognac avec un cigare. Ça, y arrive-tu de prendre juste un café d'un Tim Horton? Ou carrément, là, viens chez nous, on va jaser. On va t'en faire un café, puis on va jaser. Je vais te dire.
En fait, c'est-tu à qui il s'adresse quand il parle du médecin de famille? Il parle aux personnes âgées. Parce que eux autres, ils ont...
Mais ils en ont déjà, eux autres.
Je suis d'accord, mais... Tu sais, c'est eux autres qui ont une mobilité réduite. C'est eux autres qui... On va dire quasiment sur une base hebdomadaire consultent leur médecin. Mm-hmm. Fait qu'eux autres, tu sais, ils ont comme un abonnement, puis il leur faut un médecin de famille.
Mm-hmm.
Mais comme tu dis, un travailleur actif, dans la moyenne de l'âge, lui, là, il a une mobilité dans un... Puis quand il consulte, c'est parce que c'est urgent.
Mm-hmm.
Il fait rarement de la prévention. On devrait peut-être, là. Puis peut-être que oui... La journée qu'on aura un médecin de famille dans un réseau, on va dire, un peu plus épanoui, puis on l'appelle-tu médecin de famille? Non, tout simplement, comme tu dis, un médecin. Bon, on fera peut-être plus de prévention, mais écoute, on dirait que c'est un slogan, puis c'est un stunt publicitaire. Mmh. Mmh. On dirait que c'est comme « Tout le monde a un médecin de famille! Tout le monde a un médecin de famille! » C'est comme un cri, là, de... Pas la Hitler, là, mais tu sais, c'est comme « Yeah, ouais! Tout le monde, yeah! » Tu sais, tout le monde embarque là-dedans, tu sais.
C'est ça. Là, tu demandes à ton... Avant, Éric Salvaille, il était un animateur de fou, là, tu disais « À ton Éric Salvaille, fais applaudir la masse. » Ouais, applaudis, c'est là.
Mais content, parce que c'est vraiment un spin, effectivement.
C'est vraiment, là, je suis tanné de ça. C'est des niaiseries comme ça, c'est absolument incroyable. Ensuite, peut-être spin environnemental de l'année. Ben, bien sûr que ça fait beaucoup jaser. Là. Il y a eu, je pense que les deux sommets ont eu lieu en 2011, mais il me semble Copenhague et Durban.
Yes.
Deux endroits où est-ce que tu as vu, bizarrement, un gars subventionné par le gouvernement provincial et fédéral, donc qui prend l'argent du fédéral pour aller planter le fédéral ailleurs dans le monde. Donc, félicitations, Stephen Guilbeault, entre autres. Et c'était de voir que dire que la réputation de internationale était tachée, du Canada oui. était tachée à jamais. Ben, il y a eu quelques endroits où est-ce qu'on a eu des félicitations du Canada dans d'autres sujets, OK? Entre autres, je pense que le Canada a terminé premier au sondage de où est le meilleur endroit pour faire les affaires dans le monde cette année. Donc, c'est pas vrai qu'on n'a plus aucune réputation, que toutes les autres, tu sais, pour ceux qui ne pensent qu'environnement, que quand ils mangent leur soupe à l'alphabet, c'est écrit environnement dans leur soupe, là, pis là, le mot environnement apparaît dans ma soupe, comment ça, là? Ces gens-là, peut-être que pour eux, là, c'est le Canada, c'est le pire endroit au monde, mais il n'y a pas juste du mal aussi. Il y a, tantôt, je vais vous parler du classement de liberté, l'index de liberté économique, où est-ce que le Canada va très bien, je vais vous en parler tantôt, des choses comme ça. Donc, pensez que le Canada n'a plus aucune réputation, peu importe le sujet, c'est un peu grave, mais dites-vous par contre que je pense pas que les gens qui sont à l'extérieur du pays, lorsqu'ils apprennent des choses sur le Canada, que ça vient d'un Canadien ou que ça vient d'un politicien qui parle de ses politiques, ça vient des journaux, OK? Mmh. Moi, là, je suis capable d'aller lire n'importe quel journal si je suis capable de lire la langue, là. Je suis capable de lire les manchettes de n'importe quel journal français ou anglais dans le monde avec Internet maintenant. Donc, je suis pas tout seul, OK? Donc, si un Australien, lui, il lit... il a la chance de parler français puis qu'il lit la presse, lui, en Australie, là. Lui, c'est sûr qu'il va dire qu'Harper, c'est un ci puis c'est un ça, là. Il ne lit que des articles anti-Harper, qui rouvre la presse ou le devoir. Donc, le fil médiatique fait en sorte que c'est ce qu'on dégage partout dans le monde maintenant. Un journal là, qui est borné à ne pas analyser tous les aspects de la politique d'un gouvernement, ben c'est plate, là, mais c'est vous qui faites le plus de mal à la réputation de notre pays. Ben, c'est pas Harper qui est le plus dommageable, c'est les médias anti-Harper qui sont les plus dommageables. Sûr, okay? Ça me surprendrait qu'un gars de l'Australie aille lire le site du Parlement canadien pour voir lesquelles lois sont votées présentement. Pour avoir le texte intégral, pour se faire une idée sur les faits et non sur l'opinion des journaux. Donc, faudrait peut-être que les journaux pensent à ça. C'est un peu le même principe là des syndicats des infirmières, entre autres, qui crie au loup à chaque fois, ben après ça, s'il y a moins d'admissions, si jamais il y avait moins d'admissions dans les écoles pour devenir infirmière, posez-vous pas la question. Si ça fait des années que tu te fais dire que c'est un métier de marde, ça te tentera pas d'étudier là-dedans. OK? T'auras beau faire augmenter les salaires, puis ça, l'opinion qui est... L'idée que les gens se font du métier, c'est ce qu'ils vont avoir lu, entendu, quand que la petite madame là, qui est là-bas... Ou le petit monsieur qui est dans le syndicat, il crie au loup à chaque occasion.
Mais ce qu'il était en train de nous dire, c'est que les spins médiatiques sont très dommageables.
Ben, ça peut être très dommageable.
Très, très, très. Mm-hmm. Tu sais, ça peut même entacher l'image...
La réputation internationale.
Mm-hmm. Parce que au Québec, des fois, on pense qu'on garde ça en famille. Ah ouais. Puis que là, on a notre petite clique, là, tu sais. Je veux pas dire la clique du plateau, même si j'ai un beau sticker que j'ai ramassé à l'événement Réseau Liberté Québec. Non, mais sérieusement, c'est vrai ce que tu dis là, parce que on a toujours l'impression, puis on accorde beaucoup d'importance aux politiciens, puis tu sais, aux délégations, puis à leur allocution, mais les médias, comme tu dis, avec l'avènement des médias sociaux, de l'Internet, à cette heure, les journaux, là, ils sont... référencé même à travers le monde.
Mmh, ben oui, Google, comment ça s'appelle? Je m'en rappelle plus du nom, là.
On sait de quoi on parle.
Tu peux avoir des feeds RSS de plein de journaux.
Écoute, moi, je suis surpris, là. Même moi, quand je fais des recherches en anglais, on me donne des références, là, tu sais, du New York Times, du Los Angeles, machin et truc, Chronicles, name it, là. Mmh. Partout dans le monde. Aussitôt que comme tu dis, ça correspond à ta langue. Faut faire attention parce que on est en train de biaiser notre peuple, puis en plus, ceux qui pourraient nous faire confiance.
Exactement. Moi, je me rappelle très bien d'un article de Vincent Marissal qui était... Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un événement en Afrique du Sud à la fin de l'an passé, je m'en rappelle plus quoi. Et il y a un gars qui l'a approché. Il lui a dit, est-ce que... c'est-tu encore votre gars de droite qui est votre premier ministre? il a appris ça où que c'était un gars de droite, notre premier ministre?
C'est terrible ce que tu me dis là.
C'est incroyable. Puis lui, il était content de pouvoir raconter cette anecdote-là. C'est comme s'il nous disait, hey, ça marche notre propagande anti-Harper. C'est rendu en Afrique du Sud ou en Australie, tu sais. Donc, faut faire attention à ça, là. C'est de voir là, quelle opinion qui va sortir de vos articles là, ailleurs dans le monde. Ça peut être assez dommageable. Dans les spins culturels de l'année...
Oh, ça, il y en a toujours de nombreux.
Ouais, hein? Il y en a plusieurs, puis il y en a qui se recoupent un petit peu d'année en année. Fait que j'ai pas voulu y toucher, mais je voulais parler un peu peut-être de deux cas là, qui, dans le fond, vont revenir au même, vous allez voir. Le cas de la salle de l'OSM à Montréal le cas de la salle Le Diamant de Robert Lepage à Québec. Où est-ce qu'on nous sert la même propagande? Où est-ce qu'on nous dit que ça va nous aider internationalement d'avoir une salle comme ça payée par nos taxes, hein, puis tout ça? C'est un peu déplorable d'entendre ça. Premièrement, j'aimerais beaucoup à un moment donné, puis je vais peut-être le faire un jour, faire l'exercice, appeler un garage en France et me dire « C'est-tu vrai que vous connaissez Robert Lepage? » Parce qu'on me dit qu'il est connu partout dans le monde, Robert Lepage, c'est-tu vrai? Si j'appelle, un fonctionnaire en Belgique, il connaît-tu Robert Lepage? C'est-tu vrai qu'il est connu partout? Parce que c'est ça qu'on nous dit, c'est une sommité mondiale, tout le monde le connaît, Robert Lepage. Mm. Il faut donner l'argent de la Ville de Québec puis du gouvernement du Québec parce qu'il est connu partout. Les gens vont venir de partout pour venir voir une pièce de théâtre dans le Diamant qui va se construire dans l'actuel cabaret du Capitole. Puis, bon, ils vont même utiliser, je pense, le Presse Café, puis tout ça, dans le Place Diouville. C'est-tu vraiment ça?
Puis c'est à l'inverse aussi, hein, tous les Québécois qui vont en France, là, ils connaissent un tabac là-bas, un gros succès.
Ben ouais.
Mais c'est ça.
Moi, j'aimerais ça qu'on dise... Là, on nous donne pas cette information-là. Il pourrait-tu nous dire combien parmi la salle étaient Québécois?
Ouais,
parce qu'il y en a en maudit des Québécois qui vivent en France. Donc, je sais pas, moi, une fille s'en va, une chanteuse d'ici s'en va là, c'est peut-être l'occasion pour qu'un paquet de Québécois fasse une activité commune en allant voir ce spectacle-là. Donc, ça peut arriver. L'OSM, c'est la même chose. Ça va avoir un impact international. Ah, OK. Pourquoi qu'on ne fait pas payer tout le monde de l'international d'abord pour le projet? Pourquoi que c'est nous qu'il faut payer ça? Et je me pose la question, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact médiatique? Si je m'en vais à Chicago là, la semaine prochaine, puis qu'il y a un concert de l'OSM la veille, je risque-tu, en lisant mon journal, de lire un compte-rendu du concert de l'OSM de la veille? Je pense pas. Mais si je compare ça au possible retour des Nordiques, ça se pourrait qu'à Chicago, je puisse lire le résumé du match la veille. Je suis pas en train de dire que je veux qu'il y ait de l'argent gouvernemental dans le Colisée,
mais
je peux dire par contre que votre spin qui dit que ça va avoir un impact international terriblement positif, ben moi je vous dis, je vous en beurrez pas mal trop épais.
Puis en passant, aujourd'hui, il y a des outils de mesure, puis il y a des gens qui le mesurent.
Exact.
Fait qu'Influence Communication sont capables.
Ils pourraient le sortir.
Si moi, il y a un bijou de document que j'aime avoir, je sais pas si c'est en fin d'année ou si c'est en début d'année qui sort le rapport, là.
Il est sorti la semaine passée.
Ça c'est le fun à lire parce que tu vois aussi le rayonnement à l'extérieur du pays là, des nouvelles là, fait que c'est le fun là. Des fois on se compare là, parce qu'ils font là-dedans la comparaison entre ce qui s'est dit au Québec pendant une semaine puis ailleurs dans le monde, puis tu dis oh, il y a un décalage là, faut pas être trop nombriliste non plus
Ensuite, dans le catégorie, d'habitude, je donne un spin sportif, mais c'est pas vraiment le sujet de l'émission, là, mais en tout cas, sur RAS, vous l'aurez dit. Mais, spin, je vais aller dans le spin syndical. Ben, dans le spin syndical, écoutez, là, c'est la beauté de voir que, essayer de nous faire croire, nous prendre vraiment pour des imbéciles et dire que tous les actes de vandalisme et de sabotage et d'intimidation, c'est un mouvement spontané.
Ouais.
Ben oui, tu sais, franchement, là, comment ça qu'ils, spontanément, ils ont tous eu la même idée? Le même jour à même heure. Non, hey, c'est
mais
sûr,
ça, c'est comme tu disais tantôt, il y a un peu un manque de rigueur aussi, puis tu sais, on va pas s'expliquer quelque chose, ben on trouve une solution là, puis on la lèche un peu, puis
là je suis content qu'il y a au moins quelques médias qui ont dit non, celle-là on la gobe pas celle-là, on la passe pas telle quelle, on va publier vos niaiseries, mais là ben, on va prouver à nos lecteurs que c'est pas vrai là, tu sais. Au moins, de ce côté-là, je félicite les médias qui, je sais pas, ils ont décidé que les syndicats, maintenant, passeraient au tardeur. Je les félicite. Je suis pas anti-syndical. Je suis anti-syndicalisme à la québécoise, par contre. J'aime pas cette façon de faire de la politique. c'est de faire, c'est non, du syndicalisme, pardon, c'est une façon de faire de la politique, du syndicalisme, un peu comme Gilles Duceppe faisait de la politique. C'était du dénigrement, des menaces.
En fait, c'est des valeurs que, en tout cas, moi, je trouve...
qui sont dépassées.
Puis pourtant, ces gens-là disent défendre nos valeurs.
Ben ouais,
excuse, là.
C'est ça.
Et je vous regarde aller, puis je partage aucune de vos valeurs.
Mm-hmm. Vraiment pas. Puis c'est de valeur, parce que je trouve que un syndicat bien fait, c'est vraiment une bonne affaire.
Ça a sa place.
Ça a vraiment une bonne affaire. Mais quand tu vois que dans plusieurs entreprises, les pires intimidateurs, ou je sais pas si ça se dit, ou intimideurs, de la place, c'est les délégués syndicaux, je me dis, hey, t'es supposé de représenter tes membres, pas de leur faire peur.
Ben c'est ça. Ils ont une place, puis c'est comme toute bonne chose. Là, ils en occupent un peu trop de place. Ça, c'est là leur problème, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est qu'on va aller, on va renverser la vapeur, puis là, ils vont tous perdre des acquis, peut-être, tu sais, pour des aspirations mal placées tant qu'à moi. Ces gens-là pourraient se limiter à faire, comme tu dis, faire de la représentation de leurs membres, aller chercher des meilleures conditions de travail, mais that's it, that's all. Aller se positionner sur des orientations politiques, puis aller coucher avec des partis politiques. La dernière affaire que tu veux, c'est bien t'associer à un parti politique, mais eux autres, ouvertement, c'est le contraire. Mais ils se sont fait prendre à leur jeu, puis c'est ce qu'ils vont payer un peu, d'après moi, à travers la commission d'enquête. Parce qu'ils vont perdre des droits, là. Sur la collusion dans la construction.
Si on le courage de faire ce qu'il faut qu'ils fassent.
Ils vont perdre du terrain.
Il faut qu'ils le fassent, c'est sûr. Fait que,
les spins médiatiques là-dessus, il va falloir que ça arrête aussi.
Mais là, je parle vraiment syndicaux. Le spin syndicaux, là-dessus, je remercie les médias qui sont en train de changer d'attitude côté syndical. Vraiment, là, ils essaient de nous donner les deux côtés, c'est bravo. De ce côté-là. Et ensuite, écoute, je pense que je t'ai donné un petit quelque chose. Je te fais jouer la cote numéro 2, parce que ça serait le temps du spin de l'année. 2011, mesdames, messieurs, le spin de 2011! Oh, ouais. Gros spin cette année. Tu peux le baisser un petit peu. Tu peux le laisser en musique de fin, si tu veux, jusqu'à la fin, pas trop. Tant que l'autre tourne en marque pas, il n'y a pas de problème. Donc, spin médiatique de l'année, assez fort, merci. Je sais pas si ça a été... Je pense que c'est quelqu'un du Bloc ou du NPD qui l'a démarré, mais c'est devenu un spin médiatique parce que les gens, des journalistes, qui, je vous le rappelle, aimeraient ça beaucoup être protégés, des gens comme nous qui n'avons pas notre carte, il me semble, je m'attendrais à ce que des journalistes ne répètent pas un spin et en face le sien dans tous ses arguments pour défendre une affaire ou pour planter quelqu'un ou tout ça. Mais c'est le cas. Donc, le spin de l'année, je le remets à Vincent Marissal de La Presse, qui a décidé de reprendre même 5-6 mois plus tard un spin créé par, je pense, le NPD ou le Bloc, mais je suis pas sûr à 100%. Mais je lui remets le spin de l'année. Pourquoi? On dit que... Et je vais lire sa phrase directe, là. Il écrit fin novembre, « Rappelons que ce gouvernement jouit d'une majorité aux communes, mais qui n'a pas été... Il n'a été élu que par 39,6% des Canadiens. » Donc, il essaie de rentrer dans la tête du monde, continuer, parce que je pensais que le spin avait disparu, sauf par les répéteux habituels là, sur des blogs anonymes. Non. Là, c'est un journaliste majeur, un des plus... avec une réputation très, très enviable au Québec, qui répète ça. Donc, le gouvernement ne jouit que d'une... n'a été élu que par 39,6% des Canadiens. Donc, dans le fond, il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Il a juste été élu par 39,6%.
Ouais, ouais.
OK? Donc, on pourrait juste finir ma phrase-là puis dire « Ah, ça n'a pas d'allure faire un spin de même. » Mais c'est pas mon genre. On va aller dans les faits.
Okay? C'est ça que je m'en allais dire. Donc, c'est pas ton genre.
Fait que j'ai oublié d'amener quelque chose. J'aurais dû amener de quoi? Faudrait voir, là, mais j'ai quelque chose que j'ai inventé sur Raison Anti-Spin qui s'appelle le Spin Crusher. C'est une machine pour passer les spins dedans pour le détruire définitivement. Donc, je vais vous donner des statistiques, mesdames et messieurs.
Oh, yes.
Des dernières élections, autant au Québec qu'à Ottawa, pour voir si avoir 39,9% des votes puis être majoritaire, si c'était quelque chose de nouveau qui faisait en sorte que tout le monde pouvait dénoncer le fait qu'il y avait juste eu 39 quelques %. Donc, on regardons ça, voilà, oui, on va voir ce que ça donne. Donc, si on regarde du côté, ici, c'est les élections générales québécoises, donc ici, fédérales. Donc, on va aller voir les élections fédérales des dernières années, et on va aller voir si c'était une exception, ce qui nous arrive, puis qu'on aurait, puis qu'on devrait donner raison à Vincent Marissal, de dire, « Hey, il n'est pas légitime, ce gars-là. Il a juste 39,6% des votes. » Donc, allons voir. On va aller voir en 2008. Ben là, ça serait pas des bonnes statistiques parce que c'était minoritaire. Donc, on va remonter à 2000. Mmh. OK? L'an 2000, qui était le dernier gouvernement majoritaire depuis 2004. Là, depuis, ouais. Dans le fond, il y a eu 2011, mais la fois précédente, c'était 2000. Donc, c'était les libéraux qui étaient de Jean Chrétien. Le dernier règne de Jean Chrétien, juste avant que le scandale des commandites commence à sortir et tout ça. Je voudrais juste vous annoncer, mesdames, messieurs, que le Parti libéral a été élu avec 172 députés en 2000, avec 40,8% des votes.
Oh.
40,8% des votes.
On s'entend
au lieu de 39,6.
Hein? Ouais, c'est
Est-ce que tu as déjà entendu le spin disant que Jean Chrétien ne représentait pas les Canadiens à cause de son score?
Non, au contraire.
Oh, ben moi non plus. Puis je suis la politique en tabarouette. Donc, c'est assez bizarre, merci. 97. Est-ce qu'il était majoritaire, Jean Chrétien? Ben oui, il était majoritaire. Il y avait 155 députés. Sais-tu combien de voix qu'il y a eu, Jean Chrétien?
155?
155, ah, ouais. Drette sur le bord d'être, d'être minoritaire.
Mais il y avait peut-être moins de députés, là.
Et sais-tu combien?
Non.
À 38,46% des voix.
Fait que, on peut-tu dire que la tendance est à peu près à ça, 40%?
Ça veut dire qu'il n'y a rien d'inhabituel à avoir eu 39,6, je l'ai dit tantôt.
Tu vois, en plus, moi, j'ai quasiment tombé dans le panneau. Parce que j'en ai parlé. J'ai dit, ouais, majoritaire, mais, tu sais, décrié. Mais, j'ai pas dit que j'ai embarqué dans le bateau, en fait, là.
Fait que c'est 39,6. C'était ça, le Parti conservateur en 2011. Donc, 40,85 les libéraux en 2000. 38,46 en 97 pour Jean Chrétien aussi. Donc, les deux dernières élections de Jean Chrétien, 38,46%, 40,85%. Si on regarde en 93, premier règne de Jean Chrétien, 41,24%. Donc, c'est pas tellement loin, même qu'une fois Jean Chrétien a fait pire que Stephen Harper, j'ai jamais entendu ce spin-là. Jamais.
Ah non,
jamais,
effectivement.
Jamais. Si on remonte, on peut aller ensuite, Parti conservateur de Mel Roney en 98, 43,02%. Ensuite, 84, là, il y avait eu vraiment une majorité, là, regarde, 50,03% les partis conservateurs de Mulroney en 84. Libéraux, 44,4% en 81. OK? Donc, vous voyez, là, que c'est bizarre que Vincent Marissal n'a pas sorti, c'est
ouais, bon, mais
il
n'est
pas légitime avec ce pourcentage-là.
D'après toi, il a-tu fait la recherche? Ou il l'a pas fait? Moi, d'après moi, il l'a pas fait du
tout. Moi, là, j'ai toujours un doute.
Ouais.
J'ai toujours un doute entre la mauvaise foi puis la paresse. Je sais pas. Je peux pas le dire. C'est-tu qui le sait, mais qui dit, moi, je vais rentrer ça dans la tête du monde.
Ouais.
Puis tous les gens vulnérables qui, eux, sont paresseux intellectuellement pour aller voir la recherche, là, je vais réussir à les influencer. Ça va devenir une vérité. Donc, surveillez ça. Et là, quand on pense à un journal qui déteste ce qui se passe au fédéral, on se dit, bon, on va aller voir au provincial. Hein? On va aller voir pour le fun. Donc, les résultats, en 2008, c'était minoritaire, donc on n'en tiendra pas compte. Si on regarde le gouvernement du Québec en 2007, donc 2007, c'était minoritaire. 2008, Charest est rentré 42% des voix.
Ouais.
Okay? 2007, on oublie ça parce que c'était minoritaire. 46% en 2003. Ensuite, 44% en...
Ah, mais là, je fais un méchant mea culpa. Moi, là, tantôt, ouais. J'étais là, ouais, il a pas rentré avec 50%. Écoute, ça se peut pas, 50%!
ça se peut jamais. Pas! Ça arrive presque jamais.
Mais non.
Hein? Donc,
Mais si le Québec avait voté de façon considérable pour les conservateurs...
Ça aurait monté.
Ça aurait... Ouais, mais ça aurait pas... Ça aurait
ça pas été 50%, là. Donc, 50%, là, c'est arrivé presque jamais, là. OK? Dites-vous ça, là. C'est arrivé... Par le Parti libéral en 85 et en 89 au Québec. Donc, 56% des voix, puis 50% des voix. OK? Mais là, moi, je me suis dit, écoute, je vais regarder. Moi, je suis à peu près persuadé que son politicien favori de tous les temps, c'est René Lévesque. Donc, allons voir René Lévesque. Il rentrait à combien de pourcents, lui, en 76, la première fois? Il est rentré avec 41% des voix. Il a été nommé premier ministre du Québec. Je pense que je peux arrêter là.
Ouais, c'est ça. Je pense
je peux arrêter là. OK. Je pense que le spin, il est déconcrissé. Là, je l'ai scrappé au complet. Si vous avez besoin d'autres chiffres, ben là, je me suis fié aux chiffres de Wikipédia. Faites élection générale québécoise et élection générale fédérale canadienne dans Wikipédia. Vous allez avoir tous les résultats. Et j'ai vérifié sur le site autant de l'Assemblée nationale que de l'Assemblée du Parlement canadien. Et j'ai regardé quelques chiffres pour voir faire un spot check, voir s'il y avait des erreurs sur Wikipédia. Et dans ceux que j'ai fait le spot check, il n'y avait pas d'erreur de Wikipédia. OK? Donc, j'aimerais ça que ce spin size-là, là, vous n'avez aucun argument factuel pour dire ça, sauf de vouloir influencer et tromper la population. Et je demande encore une fois à la population, voulez-vous bien vous réveiller et arrêter de vous fier aux médias, contre-vérifier, prenez pas les choses comme pour acquises, lisez le livre que j'adore, il ne faut pas toujours croire les journalistes, qui a été lancé en 2003, 4, 5, quelque chose de même, lisez ça, c'est important, faites votre devoir de citoyen, je pense que c'est important, de ce côté-là,
puis en plus, c'était mon spin de l'année Il y a une statistique qui dit qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de téléphones intelligents. Fait que, Wikipédia, accessible de partout. Fait que,
exact. Donc,
une première recherche, là. Ça...
Exact. Puis Wikipédia, en tout cas, je sais pas si c'est bon sur tous les téléphones intelligents, là, mais je sais que pour BlackBerry, là, le format, il est parfait.
Il est adapté. Il est parfait.
C'est ça. Il a été adapté pour que ce soit très lisible, là, sur mon
Ah bon, Québécois, il est top shape.
Il est vraiment, il a été pensé, vraiment pour ça. Donc, ça, c'était mon spin de l'année 2011. Maintenant, si on va, j'ai décidé de revenir sur des dossiers de l'année.
Petite parenthèse, oui. Je viens d'annoncer là, qu'on va on va continuer avec les spins jusqu'à 22h30.
Oui, OK.
Ouais.
Ça va peut-être être écart, mais en tout cas, on verra. Dans le fond, on défonce.
Suivez-nous
jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'aimerais revenir sur certains dossiers dont j'ai parlé cette année, OK, ou qui ont fait la manchette, mais qui, là, je sors des spins. Mes spins, la partie spin, c'est fini, mais c'est encore les anti-spins qui contrôlent le show, là. Donc, j'aimerais vous faire entendre deux petites affaires. Premièrement, j'ai mis la main sur qu'est-ce qui pourrait arriver le jour où la FPJQ réussit son combat et réussit à imposer un statut de journaliste au Québec. J'ai trouvé un extrait de qu'est-ce que ça pourrait donner dans une soit dans un, je sais pas moi, dans un conseil municipal ou au Parlement ou dans un game d'hockey, où est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas leur carte qui est là. Et que, un peu comme un syndicat qui fait le tour des chantiers de construction pour voir s'il y a-tu la bonne carte d'affiliation syndicale ou non. Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir des gens, journalistes, qui vont être attitrés pour aller inspecter le monde pour savoir s'ils ont leur carte ou non. Donc, j'ai un court extrait de qu'est-ce que ça pourrait donner. Et vous saurez que dans la vie, lancer compte, ça peut servir à bien des affaires. Et peu importe le moment que vous vivez dans votre vie, il y a toujours une phrase de Régent Tremblay qui va pouvoir sauver votre situation, vous repéper. Donc, tirer de lancer compte la première série, qu'est-ce qui va arriver lorsque le jour où est-ce qu'ils vont avoir leur statut de journaliste?
Maudit, c'est esclave. Il n'y a pas un travailleur syndiqué qui accepterait pareil traitement.
Hey! Vous deux, là! Hey! Vos cartes de presse! Out! Out!
Et c'est ça qui va arriver. Il risque d'avoir des inspecteurs qui vont passer et ils vont dire « T'as-tu ta carte de presse? » Si c'est non, c'est
« Out! »
Sortez d'ici. OK, l'ancien compte est toujours pratique pour montrer un point de vue quelconque. C'est ça. Si au moins je pouvais... Si vous pouviez retenir que ça ce soir, ce serait déjà ça. Vous allez toujours trouver une phrase philosophique de Régent Tremblay pour vous en sortir. Aussi, je voulais vous sortir, c'est pas quelque chose de cette année, mais c'est un sujet qui a fait parler cette année. C'est un journaliste, je crois, du Devoir, qui a sorti le terme la madamisation ou la matantisation des médias. Je me rappelle pas c'était lequel des deux, là. Je pourrais faire une petite recherche, là. Et, je vais vous donner un exemple très concret, de ça. Et ça, je te dis, surveille la qualité sonore, ça se peut que t'ailles abaisser ou que ça griche, ça pourrait, là. C'est un extrait d'LCN de 2-3 ans que j'avais passé à mon show à l'époque, où est-ce que vraiment, là, c'est, on est dans l'ère de la prévention extrême, du « faites attention, vivre, c'est dangereux. Respirer, c'est rendu dangereux. Faire un pas, c'est dangereux. » Donc, la prévention extrême à la sauce LCN. On vous parle de comment conduire en hiver. Donc, je t'invite à partir de ça.
Quand la neige revient, on dirait que chaque fois on réapprend à conduire. On va se rappeler ce qu'il faut faire pour éviter d'être dans le pétrin sur la route. Avec Richard Spénard, qui est entraîneur en course automobile, qui est avec nous. Monsieur Spénard, bonjour.
Bonjour.
On parlait juste pendant la pause, vous disiez que l'habillement et la position de conduite, ça joue beaucoup.
Ben ça joue beaucoup, certainement, parce que, un, si on a un gros manteau de fourrure ou un gros manteau de ski, le foulard, la tuque, les mitaines, pour conduire, c'est pas idéal. Un, parce que on doit souvent faire des réactions assez rapides et surtout précises l'hiver pour contrôler un petit dérapage parce que tout à coup on est sur la glace. Alors si on est encombré avec notre habillement, c'est pas bon. Et puis plus que ça, c'est la position. C'est-à-dire que si on est trop loin du volant, si on est trop loin des pédales, si on a la main comme ça sur le volant, il n'y a rien de précis qui va se faire comme ça. Alors moi je conseille, mais pas juste moi, mais les instructeurs en particulier, on conseille d'être assez près du volant. Lorsqu'on met la main en haut du volant, ben l'épaule est toujours appuyée sur le siège et puis on a quand même un petit pli dans le coude de façon qu'on est en mesure de bien réagir.
Donc pas trop loin, pas trop loin. Proche.
Puis plus que ça, ça a été prouvé que beaucoup de personnes ne sont pas en mesure de faire un arrêt d'urgence parce qu'ils sont trop loin de la pédale de frein, ils ne sont pas en mesure d'appliquer le frein assez fort. Alors, c'est tragique parce que finalement, il aurait peut-être pu éviter l'accident.
Tragédie.
Ouais. On est rendu à vous dire que votre gros manteau pourrait peut-être vous nuire. Puis il manquait juste l'angle parfait pour le coude. Hein, pour
conduire, c'est ça, le petit pli.
Moi, je suis scientifique, j'aimerais ça qu'il me donne l'angle. Tiens, c'est-tu, c'est quoi, c'est un angle obtus, ça? C'est-tu 170? Non, 104, ça serait trop proche du 180. Ça doit être quoi? 135, 145? Comme angle.
Mais comment, puis tu sais, il est quand même bien connu dans le monde de la course automobile, comment il embarque dans une affaire de même?
C'est incroyable. Donc là, il vous conseille, il vous dit quasiment quoi acheter comme manteau si vous conduisez l'hiver. Il vous dit quasiment, vous devriez avoir un manteau quand vous chauffez pas, puis un quand vous chauffez, tu sais. Puis ton foulard, mais pas de foulard, hein, d'un coup, tu vas rester pris dans ton foulard, Steve. Voyons. C'est rendu ça. Ah,
c'est grave.
C'est la matantisation, la madamisation à l'extrême, la prévention extrême.
Et ça, ben ceux qui ont le slogan là, TVA pour la vraie vie, là, c'est déplorable un petit peu. Parce que là, on le sait maintenant, on a comme découvert un peu le cycle de ces spins-là. Hein. L'été, bon, c'est la crème solaire, c'est les dangers de des piscines hors terre. Après ça, c'est le barbecue, l'humbugger, tu sais, on les passe toutes. Là. Puis l'hiver, ben bon, le smog aussi l'été. L'hiver, c'est les engelures, écoute, il y a des risques maintenant, comme tu dis, là, on n'en peut finir, puis c'est drôle, il y était un temps où on n'en parlait pas, puis je suis pas sûr que ça a une incidence aujourd'hui si on en parle plus sur le nombre d'accidents l'hiver, à cause des manteaux et des foulards.
C'est incroyable. Donc, c'était mon point pour ça. Ensuite, si on continue dans ce qu'on a vu depuis le début de l'année, j'aimerais te revenir avec le bonheur intérieur brut.
Oui.
Comment qu'on avait nommé ça, la chronique? Je m'en rappelle pas. Hein. Faudrait vérifier.
Il faudrait retourner
sur le
dans
site.
Les archives.
Mais je vous avais parlé que je me demandais à l'époque, c'était le deuxième show de l'histoire, je me demandais comment ça que autant le ministre Bachand que le maire Labeaume ont toujours le mot bonheur dans la bouche. En disant, on peut bien donner du bonheur au peuple en leur payant un colisée. Et Bachand disait que ce qui compte, c'est pas d'équilibrer les finances publiques, c'est le bonheur du peuple, d'être heureux contre le peuple. Je me disais, il doit y avoir une tendance internationale qui montre que le bonheur est important. Puis je me disais probablement qu'il y a, il y a des rencontres justement où est-ce que le bonheur est important, où est-ce que le bonheur est discuté quand les grands bons internationaux de la politique se rencontrent. Et je t'avais dit que qui avait inventé ça? C'était un petit pays qui s'appelle le Bhoutan. Ça venait de là. Où est-ce qu'eux, ils ont inventé le bonheur national brut? Mais j'avais pas fait de recherche beaucoup sur le Bhoutan, donc je me suis dit on pourrait peut-être vous faire connaître ce pays-là un petit peu. Donc on va faire de la recherche, on va aller voir. Donc le temps que j'ouvre ça, pas tout de suite, on va le faire jouer après l'extrait.
Okay.
Donc le Bhoutan, c'est quoi ce pays-là? Là? C'est quoi cette affaire-là? Là? On dit que c'est le royaume du Bhoutan. C'est un pays d'Asie du Sud-Est sans accès à la mer. Il est situé à l'est de la chaîne de l'Himalaya, enclavé entre l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest, et avec laquelle il partage 605 km de frontières terrestres, et la Chine, région autonome du Tibet au nord, avec 470 km de frontière. C'est un pays de 46 500 km² et mesure environ 300 km dans sa plus grande longueur est-ouest et 170 km dans le sens nord-sud. Donc, c'est à peu près la distance Québec-Montréal.
Ouais, c'est ça, c'est pas énorme, mais c'est...
Dans sa longueur, et puis 170 km, je crois que ça pourrait être, là, peut-être...
Québec-Berthierville.
Québec-Berthierville, tu penses? Ouais. Ok. C'est bon. Je me crois. J'étais pour dire peut-être Stoneham, frontière ligne américaine. Ok, peut-être. Quelque chose comme ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un petit maudit pays qui va venir influencer la politique internationale de nos ministres des Finances. Ça serait plate en esti. Mais bon, ça a l'air que ça, il y a une certaine influence parce que le bonheur international brut est mesuré dans ce pays-là. Et comment ils font ça, eux autres? Ils disent que ce qu'on dit, c'est que l'une des particularités du Bhoutan est sa recherche du bonheur à travers l'amélioration de son bonheur national brut ou BNB. Donc, nous autres, c'est national brut. Là où la majorité des gouvernements se basent sur la valeur du produit national brut pour mesurer le niveau de richesse des citoyens, le Bhoutan a substitué le BNB pour mesurer le niveau de bonheur de ses habitants. Cet indice a été instauré en 1972, donc la même année que ma naissance. Ça base sur quatre dimensions, piliers du développement durable. Donc, il était précurseur. La croissance et le développement économique responsable, la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise, la sauvegarde de l'environnement et la bonne gouvernance responsable. J'haïs pas le dernier point.
Ouais, ça, c'est...
Ben, dans le fond, j'haïs aucun point, là.
Non, c'est ça.
Écoute, on est tous pour la vertu. On rêve tous d'un pays avec des arcs-en-ciel, des oiseaux qui font coui-coui. C'est bien sûr, mais en même temps, tu te dis, qu'est-ce que ça a donné, tout ça? Ben là, c'est qu'ils sont en train d'influencer plein de pays, mais eux, ils prennent juste la partie qui les intéresse, c'est-à-dire, on peut bien s'endetter tant que le peuple est heureux. Donc, le danger est là. Il y a certaines rencontres internationales qui ont eu lieu de ce côté-là. Et ça peut être des fois un petit peu dérangeant de voir là, que c'est leur but, justement, là, de faire ça. Et dans Wikipédia aussi, si vous allez dans le bonheur national brut, là, Il y a un article Bonheur national brut, carrément. Donc, vous faites Bonheur national brut dans Wikipédia. Vous faites-les sur Google, là, c'est pas grave. Et eux, ils ont commencé... On apprend que le Bhoutan a commencé à faire une espèce d'indice... a inspiré la Corée du Nord à faire un indice un indice international de savoir qui offre le plus de bonheur à son peuple. Basé sur la philosophie du Bhoutan, OK? Et la Corée du Nord a décidé de faire ça, un indice du bonheur mondial, et devinez qui a été nommé la place où est-ce que les gens sont le plus heureux?
Non, j'appréhende.
La Chine!
Ah, ouais!
Mais c'est fait par la Corée du Nord, pays communiste. Là,
ouais,
tu comprends,
c'est ça.
Là? Tu dis, waouh, on va se fier ça dessus en tabarnak, pour comme il dit. La deuxième place, bien sûr, ils se sont autonommés deuxième, la Corée du Nord.
Ah ouais.
Hein, parce qu'il faut bien que... Ben ouais. Ils se sont gardés une petite gêne pour ne pas pas se mettre premier, mais on dit, on va se garder à la deuxième place. Troisième place, le Cuba. 3, Venezuela, et 4... Attends, un, deux, trois... Cuba, c'est troisième. Venezuela, quatrième. Et l'Iran, cinquième. Oh, ouais. Donc, s'il vous plaît, hein, prenez cet indice-là, puis sacrez-moi ça, d'ange, là. Donc, on dit le bonheur n'est pas quantifiable, et sa mesure ne peut reposer que sur des mesures qualitatives, des indicateurs indirects, ou la déclaration toujours subjective des personnes interrogées. La fiabilité de ces résultats dépend donc de la manière dont les informations sont collectées et analysées. Et bien, on a une maudite preuve, là. Ça veut dire que si tu fais compiler ça par la Corée du Nord, t'es sûr de te faire bullshiter. Et je me suis posé deux questions par rapport à ça. Si tu es un pays parfait,
ouais.
Ou non, le Bhoutan, ben je regardais dans les notes de bas de page où est-ce qu'on vous donne les références et tout ça. Et qu'est-ce qu'on dit? Il y a une liste dans le bas de la page de Wikipédia où est-ce que c'est écrit les 50 pays où la persécution des chrétiens est la plus forte. Et dans le top 50, il y a le Bhoutan.
Aïe aïe!
Wow! C'est dans le fond, ils sont heureux de persécuter des chrétiens. Et l'autre référence qu'on donne, c'est la politique gouvernementale de quasi-interdiction du christianisme ne s'assouplit pas au Bhoutan.
Ben là, c'est...
Donc, ils se font un petit plaisir sacrifier des chrétiens. Donc, ça augmente leur bonheur, c'est de toutes les beautés de ce côté-là. Et l'autre question que je me suis posée aussi, c'est de dire, écoute, économiquement, comment ça va, eux? Ils sont,
ouais, ben c'est ça, ils sont où?
C'est ça, ils sont supposés être heureux, il me semble, je sais pas. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, je vais le passer au travers du filtre de l'index de l'indice de liberté économique.
OK.
OK. Et je voulais juste vous apprendre que le Bhoutan est 103e au monde. Sur quoi? 190, 200 quelques.
Ouais.
Et le Canada, lui, est 6e.
Bon. OK.
Donc, leur recherche du bonheur leur donne pas, ne donne pas
non,
leur
c'est ça.
Top.
Il n'y a pas de lien.
Non, il n'y a pas de, de liberté économique là-dedans. Et dites-vous que si on n'avait pas à compiler les chiffres du Québec dans l'indice de liberté économique, probablement que le Canada serait peut-être 3e ou 4e. Là. On peut s'attendre à ça, sûrement. Et juste pour vous dire que on est quand même de, sur la bonne voie au Canada. Faut pas se décourager. Je suis pas un fédéraliste extrême, pantoute, là, tu me connais.
Oui,
mais
effectivement.
Faut dire que, bon, le Canada fait mieux que les États-Unis en termes de liberté économique. Les États-Unis sont 9e.
Mm.
Donc, ça peut être surprenant d'apprendre ça, quand on pense que c'est du capitalisme sauvage qui se fait aux États-Unis. Mais c'est pas tout à fait le cas de ce côté-là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, faire un update là-dessus sur le bonheur intérieur brut. C'est le mot que vous devez peut-être retenir là-dedans, c'est subjectivité de la personne qui
ouais.
fait l'indice du bonheur. Donc, si on laissait Bachand faire l'indice du bonheur, on serait dans la chenoute. OK. Ensuite, hey, j'ai décidé de te voler une chronique.
Mais là, je mettais-tu un extrait pour ça, non? Pour,
on laissait tomber.
Non? OK, c'est bon.
Fait que laisse tomber cet extrait-là. J'ai décidé de te voler une chronique.
Ouais, je vois ça ce soir, là, tu sais.
Mais je me dis...
Un takeover des zones, ouais, vole une chronique.
J'ai volé une chronique. Donc, j'ai décidé à ce soir...
Dis-moi, là, là, si je reviens pas l'année prochaine, là, on va régler ça tout de suite.
Non, mais j'ai eu ce flash-là.
Je vais faire mes adieux.
Fait que, on va faire une petite chronique, je me souviens. Je vole la chronique à Steve pour ce soir, donc pars-moi ça.
Nous avons par exemple construit le stade des Expos. Et déjà, il prouve qu'il est rentable. Dans quelques années, il aura été payé par ses propres revenus. Par ses propres revenus, les Montréalais sont plus riches d'un stade et ça nous aura bien coûté.
Je me souviens. Ouais, je sais pas, le but de l'intro, c'est que vous compreniez que Jean Drapeau donnait les mêmes arguments que la bombe nous donne aujourd'hui concernant l'alcoolisé, que ça va être rentable, ils vont se payer tout seul, puis il n'y en aura pas de problème. J'ai décidé de vous sortir juste. Moi, je voudrais dédier l'extrait que je vais vous faire jouer aux électeurs de Bonaventure qui ont. Malgré tous les scandales, la mauvaise gouvernance, la bullshit qu'on nous a fait. Ils ont décidé de revoter libéral. Donc, j'aimerais dédier cet extrait à la gang de Bonaventure qui n'ont pas compris que des élections, ça servait à passer de gros messages aux gens au pouvoir. Et j'ai quelqu'un sur Twitter qui m'a dit « Ouais, mais Calif, tu voulais qu'ils votent pour qui? » Ben, il y a des fois qu'il faut se boucher le nez puis voter pour la deuxième choix qui peut peut-être gagner. Et vous auriez peut-être pu faire une exception puis voter PQ juste pour passer le message. Mais là, vous passez le message... Let's go, mon Charest, continue! On aime ça qu'on se fasse avoir. Continue à mal gérer. Continue à laisser aller la collusion, la ouais. corruption, le copinage, la construction.
C'est comme la femme battue qui en demande.
Ben oui, c'est ça. Qui dit, moi, mais il m'aime.
Ouais, c'est ça.
Ben, j'ai décidé de vous ressortir quelque chose qui va vous faire mal et j'espère que vous allez vous, vous en rappeler s'il y a des élections tôt en 2012. J'ai ressorti le dernier reportage fait par Radio-Canada juste avant l'élection de 2003 de Jean Charest, donc sa première élection. Un reportage de Radio-Canada de José Thibault, qui est habituellement une popée journaliste, qui, d'après moi, aurait dû avoir la job au lieu de Céline Galipeau, en passant, c'est mon message. Mais écoutez, le dernier, c'était le wrap-up de la campagne électorale de Jean Charest qui a été passé la veille de l'élection en 2003. Je vous invite à ne pas jeter ce que vous avez dans les mains au bout de vos bras en écoutant ce reportage-là. Donc, résumé de la campagne électorale de 2003, juste avant l'élection de Jean Charest.
Charest les attend depuis 5 ans. Et le slogan de la campagne, qu'il répète à toutes les occasions possibles, est formulé pour que l'on sache sans aucun doute qu'il estime que son temps est venu.
Chers amis, je suis prêt. Nous sommes prêts.
En début de campagne, il a décliné les engagements de son programme, connu depuis septembre dernier. Ensuite, il a surtout apporté des précisions.
Le droit des soins dans des délais raisonnables.
À chaque jour, Jean Charest s'est employé à critiquer le bilan du gouvernement du Parti québécois. Des listes d'attente au manque de places en garderie jusqu'au déboire de la Caisse de dépôt. Tout y est passé.
C'est le plus gros désastre financier dans l'histoire du Québec.
Il s'est toutefois retrouvé coincé lorsque plusieurs maires lui ont demandé de ne pas donner suite à sa promesse de permettre les diffusions municipales. Lors du débat des chefs, il a choisi lui-même d'évacuer le sujet.
Moi, je souhaite que les nouvelles villes réussissent.
Ensuite, Jean Charest marque des points grâce aux déclarations ambiguës de Jacques Parizeau. Et puis, grâce à la profession de foi renouvelée du chef péquiste en faveur d'un référendum dès que possible, il peut agiter l'épouvantail de la souveraineté.
Il reste toujours que, fondamentalement, au Parti québécois, le choix, c'est la souveraineté à partir du 14 avril, alors que nous, on choisit la santé.
Ce qui se voulait un coup de main donné par quelques députés et ministres fédéraux viendra pendant quelques jours jeter une douche froide sur la campagne libérale.
Le minimum de maturité politique nous amène à conclure qu'on ne sera pas toujours d'accord sur les mêmes choses. Ça ne nous empêche pas d'avoir des intérêts communs puis d'avoir des points de divergence.
Les libéraux veulent réorganiser et amincir l'État québécois, mais pour savoir où un gouvernement libéral ferait ses compressions, quel ministère serait aboli, il faudra attendre.
Les projections sont très prudentes.
Jean Charest croit avoir bien joué ses cartes pendant la campagne. Un mélange de critiques du bilan de ses adversaires et aussi de propositions dont bien des détails restent à venir. Mais qui, croit-il, devrait séduire un électorat qui est tenté par le changement? José Thibault, Radio-Canada, Québec.
Électorat, hein? Tenté par le changement.
Oui, changement, toujours, toujours le changement. Deux, trois choses dans l'extrait. L'extrait, il dit... C'est le plus grand scandale financier de l'histoire du Québec. OK? Sais-tu de quoi qu'il parlait? Il y avait eu un scandale à la Caisse de dépôt à l'époque. Le scandale de Montréal Mode.
Ouais, effectivement.
Et sais-tu de combien combien de millions qui avaient été perdus par la Caisse de dépôt dans ce plus gros scandale financier de l'histoire du Québec? 30 millions.
Ouh!
On est-tu loin du 40 milliards de sons de gouvernement? À 30 millions, ça devenait son plus gros scandale pour lui.
Aïe aïe.
La Caisse de dépôt.
Effectivement.
Wow, bravo mon Johnny. Deuxièmement, il nous promet son thème principal à cette époque-là, c'était les délais d'attente. On l'a entendu dans le reportage. C'est vraiment réglé. On a encore eu une hausse cette année. La hausse à l'urgence. Une hausse, les délais d'opération sont rendus à 19,9 semaines.
C'est ça. Ça a pas bougé. Puis en plus, ça a bien des cas, augmenté.
Exactement. Et il dit que il peut faire la réingénierie de l'État et baisser les impôts parce que les prédictions qui ont été faites, les calculs qui ont été faits, sont très prudentes. Hein? Comment il a dit ça? Sont modérés? Je pense qu'il a dit modérés dans
modéré.
Le reportage.
Ouais.
En disant qu'on n'a pas exagéré les chiffres, on l'a mis réaliste, donc c'est pour ça qu'on va être capable de faire.
Non.
On n'a jamais eu les baisses d'impôts de 5 milliards et les finances publiques sont catastrophiques. Il n'a absolument rien fait et ce n'est pas dans ses projets non plus, même s'il y avait une campagne électorale dès cette année,
au contraire,
ça changera pas.
Au contraire, on est de plus en plus dépendant de la péréquation Québec. Retenez ça. Retenez ça.
Exact.
Donc, arrêtez de cracher peut-être sur votre gouvernement fédéral, parce qu'ici, il sera pas là. Puis vous auriez votre pays, là, je parle aux souverainistes. Et l'indice du bonheur, d'après moi, là, elle serait troisième après la Corée, parce que de toute façon, on sait que...
Hein? L'indice, c'est vraiment...
Ouais, elle serait...
Ouais. Donc, c'était en gros quelques points que j'ai retenus de 2011 pour cette année. Et je voulais peut-être ouvrir un sujet avec toi. Il reste des extraits là-dessus.
Ben oui.
Je vais voir si on va faire jouer les extraits, mais je voulais quand même... je pense qu'on pourrait peut-être informer nos auditeurs de nos projets pour l'an prochain. On pourrait peut-être ouvrir le sujet un peu. C'est pas compliqué. Et on a vraiment, je pense qu'on a vraiment fait un grand coup quand on était
sur la
radio satellite d'être là, puis ça c'est grâce à tes contacts, là. Le fait qu'on soit là, qu'on a été là, j'ai absolument rien à voir là-dedans. Là. C'était vraiment un gros travail.
Oui, parce que il y avait d'avoir la place, mais il fallait l'occuper, puis l'occuper avec un contenu, là. Donc là-dessus, prendre le mérite.
Ouais, mais les départs, là, d'avoir une antenne importante, c'est grâce à tes contacts, donc merci beaucoup de ce côté-là. Et là, ben c'est pas compliqué, là, pour 2012, on veut revenir sur une antenne qui se tient. On veut pas se contenter que d'Internet. Donc, on travaille là-dessus. On a monté un petit plan, moi et Steve, puis on voulait vous renseigner là-dessus. Notre objectif, dès la première émission de 2012, c'est vraiment de retrouver une antenne solide qui n'est pas seulement Internet. Donc, c'est dans les... C'est notre projet.
C'est ça,
notre suite, la suite de connaître la suite. Là. C'est vraiment ça qu'on regarde. On vous dira pas nos plans exactement, mais
Mais c'est d'avoir cette dualité-là, de conserver quand même l'aspect des médias sociaux, de la radio Internet.
Du podcast.
Ça, c'est aucune inquiétude pour vous de votre côté. Mais c'est sûr qu'on voudrait rejoindre monsieur, madame, tout le monde, là, ce qu'on appelle là, la diffusion grand public, là, pour faire cette pédagogie-là, comme tu le disais tout à l'heure. Puis on a des gens, on est choyés parce qu'on a des gens qui nous appuient là-dedans, puis qui viennent justement faire cette pédagogie-là avec nous, parce que moi et toi, on est capable d'en faire un petit bout, mais on a des gens, écoute, et je pense à tous ceux qu'on a mis justement dans notre plan d'affaires, parce que comme tu dis, on a mis sur pied un plan d'affaires. Écoute, on a eu des entrevues puis des gens qui sont venus justement dans l'entourage de notre émission, malgré que dès le départ, on n'attendait rien de ces gens-là. Écoute,
on avait aucune idée de la réponse.
Non, c'est ça. Puis avec ces gens-là, on est convaincu que dans un revampage, ou on peut-tu dire ça comme ça, dans une version revampée de l'émission avec une dualité là au niveau de l'Internet et d'une station avec une antenne qui pourrait nous permettre de rejoindre monsieur, madame, tout le monde, de retrouver un peu ce mode-là où on aurait une partie très éducative, où peut-être pour certaines personnes, ça pourrait être du réchauffé, mais on en apprend toujours, parce que ces gens-là, c'est rare qu'ils se limitent à deux, trois phrases. Là. Donc, quand on donne une demi-heure ou 45 minutes à quelqu'un puis qui nous entretient sur des philosophies, sur des dossiers d'affaires, ou pas d'affaires, mais du monde des finances, sur le droit, ainsi de suite, c'est toujours intéressant.
Exact. On a eu des offres de chroniques, même si on était sur Internet. Là. Donc, imaginez le nombre de chroniques qu'on pourrait se faire offrir par des gens de l'externe si on avait une antenne importante qui diffusait le show. Écoute, moi, j'avais commencé mes shows personnels les dimanches soirs, puis je pense que j'ai réussi à convaincre Steve que avec mes arguments de pourquoi je le faisais ces soirs-là, le dimanche soir à cette heure-là, Steve est rendu pas mal convaincu aussi qu'il y aurait du monde. Disponible pour écouter le show à cette heure-là sur une antenne normale.
Et je suis têteux, mais on est en fin d'année. Je remercie d'ailleurs ceux qui ont fait ce passage-là, là, tu sais, qui sont passés du vendredi au dimanche. Ouais. Donc, qui ont resté fidèles, en fait.
Parce que là, c'est quoi, la dernière émission, on n'était pas sûr, mais ça serait peut-être la meilleure écoute Internet depuis le début.
C'est ça. Puis là-dessus...
En live. Là,
oui,
en
puis
live,
on n'a pas pu vous le dire, mais on l'a vu, on l'a écrit après l'émission. Sérieusement, puis on a vu les résultats. Moi, j'étais frappé là par tout ça, parce que je trouve que justement cette base-là demeure, elle est fidèle, puis on vous remercie. Mais on veut explorer aussi ce marché-là, qui est le marché de monsieur, madame, tout le monde, pour, d'un, permettre à ces gens-là qui ont... Puis on a eu des invités que vous connaissez, qui sont bien connus, qui ont accès actuellement à un micro. Mais quand ils ont accès à leur micro, on leur donne 2-3 minutes.
Puis à la télé, dans certaines émissions.
Ils ont pas... Puis je vous le dis, c'est pour ça qu'ils reviennent à notre émission. C'est parce que... Ils ont cette liberté-là. Sérieusement, nous, là, il n'y a jamais de ligne directrice qui est donnée, surtout pas à des invités qui en apportent beaucoup plus que nous en termes de profondeur.
Puis là-dessus, c'est le fun, là, parce que t'en parles, parce que on l'avait dit avant même de commencer avec l'émission, qu'on voulait faire ça. Ça partait un peu de frustration qu'on avait à écouter d'autres shows.
Ben oui.
De dire, nous, on veut pas que ça soit... On veut pas que ce soit l'intervieweur qui se mette en avant-plan. On veut que ce soit les idées et la personnalité de la personne qu'on interviewe. Donc, pour ceux qui ont peut-être pas connu nos premiers podcasts, allez écouter ça. Vous allez voir qu'on prend pas la place de l'invité.
Non.
On veut entendre l'invité. Puis si on va intervenir, si on veut le partir sur une nouvelle piste ou lui faire compléter une information, mais c'est pas notre but de prendre la place de l'invité. Puis ça, on l'a eu le commentaire des invités qui nous l'ont dit. Bravo.
Puis il y a deux choses là-dedans. Nous, on prend pas la place. Puis l'image sonore aussi ne prend pas la place. C'est pour ça que, oui, il y en a qui vont dire, c'est assez dénudé. Mais c'est voulu comme ça. On veut pas avoir trop publicitaire dans nos shows. C'est pas le but. Puis à l'époque, la radio satellite, on n'en avait pas parce que on a trouvé un terrain d'entente où il était possible de ne pas avoir de publicitaire. Parce que pour nous, de couper un invité pour lui dire qu'on s'en va en pause, c'est la dernière chose qu'on veut faire. Le couper parce que il manque de temps à l'émission. Oui, ça, c'est frustrant, mais en même temps, ça veut donc dire qu'on s'est rendu à bon terme au niveau de du sujet qu'on voulait couvrir avec l'invité quand on est capable de combler. Puis bien des fois, c'est arrivé là. Puis je pense à des discussions qu'on a eues avec Joanne Marcotte où on n'a pas été capable à l'intérieur de 2 heures de canner le show comme on dit. Puis ça, c'est ça là en tant que qu'animateur, ça c'est ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir l'impression que moi-même personnellement j'ai été comblé par l'invité, puis au-delà même de mes attentes puis du temps qu'on avait disponible. Fait que ça va redemeurer là, ça c'est sûr.
Mais c'est sûr que si on va sur une antenne, par contre les pubs on n'aura pas le choix. Mais on va le faire avec parcimonie là,
c'est ça.
Ça sera pas l'objectif là, c'est non. On puisse avoir des longues entrevues.
Puis dans
quand
notre
même,
modèle c'est d'en avoir le moins possible, puis c'est pour ça que là-dessus on vous le cachera pas, on mène une vie aussi parallèle à la radio, puis pour nous c'est important parce justement c'est sûr demain matin si on voudrait en faire notre premier travail, ça amènerait d'avoir justement cette compensation là financière à travers des publicitaires qui en fait désagrégerait là je suis en train de faire un mot là, mais diminuerait en fin de compte l'importance qu'on veut nous donner à cette 2 heures là en fin de compte là.
Comme je te dis, on n'aura pas le choix.
On va
s'arranger stratégiquement.
Ça va être bien dosé.
C'est ça, stratégiquement on va s'arranger pour que ça passe bien. Puis
c'est pour ça qu'il faut être fin négociateur
exactement.
Dans nos discussions.
Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que si on a une antenne, on trouve une antenne, ben là, ça deviendrait hebdomadaire.
Ouais.
C'est sûr qu'on va une émission mensuelle, ça ne marchera pas. Là. Mais écoute, si on a une antenne, ça va valoir la peine d'être hebdo. Ça va valoir, les invités, ils vont avoir plus un intérêt de participer au show, sachant qu'ils vont être beaucoup plus entendus que s'ils faisaient dans le cadre d'une émission seulement Internet.
C'est du donnant-donnant dans tout ça aussi.
C'est normal. Donc, c'est ça notre objectif. Puis moi, pour m'amuser, je nommerai pas de station, mais par la bande, je la nommé quand même. Je me suis amusé, puis là, Steve, si ça te tente, on va là-dedans. Je l'ai montré que pour certaines affaires, ça peut être bon de nous prendre dans leur équipe, parce qu'on se rend compte que dans certains choix que j'ai fait ou des choses que j'ai fait, et même dans le choix de l'émission avec toi, les thèmes et tout ça, on a quand même devancer des gens qui avaient déjà des qui ont parti des choses plus tard, mais qu'on avait devancé. Puis moi, je me suis amusé à... C'est vrai, là, ce que je vous fais jouer, là, c'est vraiment vrai. Donc, sans nommer la station, là, je vais juste vous faire entendre des choses qui jouent sur une radio assez importante au Québec, et vous montrer que j'avais fait la même affaire, mais avant eux, sur certains jingles et tout ça. Donc, je me suis amusé à vous amener des comparaisons. Donc, voici le premier extrait. Donc, je vous fais écouter une affaire qui joue présentement à la radio.
Le show du matin, le matin, en matinée. Le show du matin avec Denis Gravel.
I am
Denis Gravel.
Punk, and I am the voice of the voiceless, and you will like it.
Et Jérôme Landry.
Bon, ça joue depuis je sais pas combien de temps, là, mais... Je vais juste vous montrer ce que j'ai créé au mois de août, qui ressemble pas mal à ça, vous allez voir.
I am FBI, and I am the voice of the voiceless, and you will apologize, and you will like it!
Je te dirais que c'est même meilleur.
C'est plus rock, hein? Donc ça, si j'avais créé ce jingle-là pour mon émission, le T-Card, qui jouait le matin, à tous les matins. Donc, ça se ressemble un petit peu.
Ouais, c'est bon.
Et je vais juste faire entendre aussi une chronique qui joue depuis début novembre à une émission aussi, donc pas ça.
Voici la grosse nouvelle de votre journal Le Soleil. Avec nul autre que Madame Soleil.
Deux villes portuaires fortifiées, deux villes réunies par une transat depuis 1984. Saint-Malo 1 TGV, Québec en souhaite 1. Saint-Malo accueillera les grands voiliers en 2012.
Et donc ça, c'est une chronique qui est depuis le début novembre, où est-ce que l'animateur utilise le lecteur intégré, là, quand vous vous abonnez au Soleil, il y a moyen de faire lire l'article par un système électronique et tout ça, donc ça a demeuré au mois de novembre. C'est juste que moi, j'ai fait ça l'an passé au T4 à partir du 17 juillet 2010, par l'extrait.
En direct de la salle de presse, RAS News, voici les manchettes avec Cécile Galipov.
Alors à toi, Cécile.
Le maire prolonge ses vacances. Étant donné l'automne chargé, qui s'annonce à l'hôtel de ville de Québec, et ses mots de don qu'il souhaiterait primer au maximum, le maire Labeaume a décidé de prolonger ses vacances cette semaine. Karine Gagnon.
Donc, en plus de genre connaître la suite qui ressemble à d'autres choses qui ont été créées plus tard, réseau Antispin qui a été créé après, avant quelque chose qui a été créé plus tard, le message que je veux lancer, c'est écoutez, là, je sais pas si c'est des hasards ou si c'est voulu, j'ai aucune idée, là, mais si vous voulez les originaux, là, venez nous chercher. Okay? On est disponible dès janvier. Gênez-vous pas. Contentez-vous pas de la copie. Venez nous chercher tous les deux.
L'original.
Fait que c'est notre pitch d'avant. Viens de moi.
Hey, merci à toi, Danny. Sérieusement, on va se souhaiter une année 2012 remplie de bonnes choses. Et de un, ça passe par notre vie personnelle et notre vie professionnelle à deux niveaux. Donc, sur le plan de notre carrière qu'on mène en parallèle à cette carrière qui est pour nous aussi importante, sinon plus. Sachez que moi et Danny, on serait les premiers à s'investir davantage en politique active, mais on n'est pas réconfortés dans un parce qu'on voit.
Par l'offre politique.
Puis pour nous, ça passe par le respect de nos convictions, nos valeurs, et qui sont essentiellement basées sur la liberté et la responsabilité individuelle. Mm-hmm. C'est pour ça que pour l'instant, avec le show, on fait de l'éducation parce qu'on pense aussi que il y a un phasage dans tout ça. Puis ça commence par ça. Mais la journée où on pourra aspirer à plus, on le fera peut-être sûrement, on le verra. Mais pour l'instant, c'est notre contribution et on espère que en 2011, vous avez apprécié cette contribution aussi modeste.
Combien d'émissions on a fait finalement?
J'ai pas le temps, tout près de ça.
On a fait une papier part puis on serait.
Je nous souhaite le double pour 2012.
Ouais.
Une quarantaine d'émissions avec d'aussi nombreux invités de qualité.
Exact.
Hey, merci tout le monde. Et merci de nous écouter et merci à vous aussi à la maison comme dans la voiture. Écoute, ça c'est le côté satellite parce qu'on a beaucoup de gens qui nous ont écoutés dans leur voiture. Donc
faites-nous connaître.
Oui, c'est ça. Partagez.
Là, c'est ça, partagez. Vous avez 3 semaines là, pour nous faire connaître.
Vous êtes nos ambassadeurs.
Exact.
Parlez-nous.
Aidez-nous à nous faire connaître qu'on aille notre antenne.
Oui, ben merci, hey Danny.
Salut bien.
Bonne
année 2012.
Bonne fin d'année.